Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de prolongation, l'émission où vous pouvez retrouver le vendredi soir de 21h30 à 23h sur Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, c'est la radio de toutes les droits, de tous les talents, et ça a été dit dans le jingle précédent. La gauche tente de bâillonner cette courageuse radio qui fait un travail évidemment formidable et dont je vous invite à soutenir du mieux que vous pouvez Radio Courtoisie, ses dirigeants, ses animateurs, pour permettre à toutes ces équipes de faire un travail formidable. Il est notamment important de les soutenir dans une période où, on l'a pu le constater, Radio Courtoisie avec l'Incorrect, Boulevard Voltaire, l'Observatoire du journalisme indépendant et l'Incorrect ont pu faire un travail admirable sur les associations de gauche qui défiscalisent à outrance et qui, alors qu'elles ont tenté, via Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, d'attaquer Radio Courtoisie ou le collectif Nemesis, il est important de rappeler que ces associations de gauche, parfois par centaines de millions d'euros, bénéficient de la défiscalisation. Chers amis, c'est la dernière émission de la saison pour nous, avec prolongation, puisque chacun partira d'ici quelques semaines dans ses pénates. L'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité et aussi évidemment remercier les chroniqueurs de talent qui m'ont accompagné tout au long de l'année, dont je vais les citer. Et c'est pour ça que j'ai la chance ce soir de recevoir.
Ouais, il est taquin.
Je comprends la vanne.
Et donc, j'ai ce soir la chance de recevoir plusieurs chroniqueurs de talent. Un que vous connaissez particulièrement bien, puisqu'il est l'un des visages de Radio Courtoisie, un des animateurs phares, une des personnalités qui permet à cette radio de vivre avec talent, efficacité. C'est évidemment Alexandre de Galzin, qui fait un travail formidable tous les matins sur Radio Courtoisie. On espère évidemment beaucoup de succès pour les semaines et mois à venir.
Merci beaucoup, Stanislas, et bonsoir à tous les auditeurs.
Edouard Lavolée, on ne vous présente plus.
Bonsoir, Stanislas. Oui, un habitué sporadique. J'ai eu quelques désistements et quelques maux de ma mère pour défection physique, parce que j'avais des petits problèmes personnels, mais je viens quand il le faut, notamment pour la dernière de la saison.
Eh bien, écoutez, nous vous en sommes gré. Merci, Edouard, d'être parmi nous. Étienne Darjac. Fidèle parmi les fidèles, vous étiez là la première.
J'étais là la première, je suis là la dernière, la boucle est bouclée.
Bah écoutez, Étienne, comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous, cher Stanislas?
Bah écoutez, pleine forme. Et pour cette dernière de la saison, Côme de Bréval, bonsoir Côme, merci d'être parmi nous.
Merci Stanislas, bonsoir à tous.
Ce soir, un programme chargé, merci Côme de rejoindre cette équipe. Alors, de comment la qualifier de joyeux luron? Alors on dit savoir gré, me dit-on par message auditeur. Oui, ça s'appelle une erreur de langage et ça arrive à plein de gens bien. Donc,
et particulièrement vous, Stéphane.
Ça m'arrive particulièrement, mais et j'aurais l'occasion d'y revenir. Mais quand on n'a pas grandi dans les beaux quartiers parisiens en passant par les grandes écoles comme Stan, Franklin ou Louis le Grand, évidemment on a quelques lacunes. Oui. Et je considère que le
vous en avez quand même beaucoup.
Volonté. J'en ai beaucoup, mais vous savez.
Faut pas mettre les trois lycées cités sur le même plan.
Ah oui, pourquoi, comme expliquez-nous.
Ils défendent pas la même chose. C'est pas le public et le privé, c'est pas.
Ah, ça, c'est trois lycées d'excellence.
Commencez pas par la polémique, s'il vous plaît. Comme c'est la première fois que vous êtes ici.
C'est la deuxième fois. En général, la première est excellente par insouciance. Et la deuxième, par confort, peut parfois se cracher. Gros programme ce soir, puisque nous allons évidemment revenir sur l'année écoulée, mais également, et c'est important de le dire, sur l'actualité. Alors, plusieurs choses sont à aborder. Je pense évidemment à Monsieur Wauquiez, qui a défrayé la chronique par sa fidélité habituelle. Je parle évidemment du procès qui a lieu le 7 juillet de Madame Le Pen, où on aura le rendu de l'appel à cette date-là, donc mardi à partir de 14h. Évidemment, le sujet de l'euthanasie, les sujets animalistes, où on a pu voir les polémiques, et Alexandre Galzin, vous avez été menacé de mort.
Pas de mort, mais pas loin, oui.
Pas loin.
On en reparlera.
Sur ce sujet. Et puis évidemment, émission estivale oblige, nous parlerons des lieux de villégiature des uns des autres, si vous le désirez. Édouard Lavolée, vous êtes en train de nous confectionner, j'ai l'impression. Vous avez un chargeur qui
oui, un peu récalcitrant, un peu capricieux, mais pour me tenir au fait de l'actualité, si jamais on a Wauquiez qui décide de soutenir Olivier Faure dans la soirée, je pourrais vous en tenir au courant, mais pour l'instant, mon téléphone ne charge pas très bien, donc
Ça, c'est de l'actu, ça, quand même.
Oui, ça, c'est de l'actu. On est sur le show, là, vendredi 21h14, 34. On est vraiment sur le show, mais je vous laisse la parole, Stanislas, pour présenter l'émission, évidemment.
Peut-être Laurent Wauquiez.
Ah, Laurent Wauquiez.
Et on fera ce qu'on appelle, alors, vulgairement, oui, avec un anglicisme que je vomis, bien sûr.
Et vous devrez mettre une pièce dans le cochon, ça.
Oui, mais le cochon a disparu, j'ai l'impression.
Il est juste à votre cochon.
Il
est à ma droite. On fera un photocall.
Ah oui, le photocall, emprunté à l'émission de Léa Salamé, à quelle époque.
Alors, expliquez peut-être le principe à nos auditeurs.
Nous aurons l'occasion, après, dans la deuxième partie de l'émission, de vous donner le nom de plusieurs personnalités. Vous devrez réagir en leur posant une question.
Oui.
Évidemment, pour que ce soit spontané et le plus naturel possible, nous ne vous disons pas en avant. Évidemment, on a travaillé ça de longues
tout
semaines.
Tout est pipé, on a eu les réponses il y a une heure, vraiment. On doit l'honnêteté aux éditeurs.
Où trouvez-vous toute cette énergie,
Stanislas, par exemple. Non, je peux pas le dire ou pas.
Allez-y.
On va avoir une question sur Patrick Bruel et on va devoir dire ce qu'on pense de lui. Je vais devoir jouer la personne qu'il défend, alors je ne le défends pas du tout. Tout ça est pipé, tout ça est en sketch organisé. On préfère être honnête avec vous alors que je ne le pense pas du tout. J'ai perdu à la courte paille il y a une heure au bar et donc je me dois d'être honnête avec vous.
On était à la courte paille
vraiment, on était dans le Vexin, vraiment dans de la vraie paille. J'ai tiré la courte paille, j'ai perdu. Donc je vais devoir être le défenseur Patrick Bruel. Alors je ne le pense pas du tout, mais je me dois d'être, encore une fois, droit dans les yeux, comme dirait un certain Jérôme C. Jérôme C.
Qu'est-ce que vous en pensez de Jérôme Barrella?
Jérôme Barrella, il a le droit à la défense. Que du mal. Pardon. Bon, bref, Stanislas, continue l'émission, mais moi je me dois l'honnêteté. C'est de la glasnost. C'est la transparence. C'est la transparence à outrance. La transpercence, comme dirait Eric Dupond-Moretti. Alors je vais imiter Stanislas Rigaud, parce que je vois qu'il est... sa glotte est en train d'être bloquée. Vous pensez quoi de Laurent Wauquiez, monsieur Darjac? On rappelle que Laurent Wauquiez a plus ou moins suggéré qu'il voterait qu'il pourrait voter pour Édouard Philippe à l'élection présidentielle.
Plutôt qu'après
Bruno Retailleau. Et il n'honorait pas son engagement en faveur de Bruno Retailleau. Qu'est-ce que vous pensez de cette énième trahison d'un LR? Alors qu'il y a un an, il disait sur le plateau Sonia Mabrouk qu'il ne pourrait jamais voter pour Édouard Philippe. Enfin, ça me paraît totalement lunaire. Monsieur Darjac, c'est à vous.
Écoutez,
les Français vont le savoir.
Oui, ils ont le droit. Et on va leur dire. On va leur dire toute la vérité sur ce triste sujet. Laurent Wauquiez s'illustre une nouvelle fois, j'allais dire, par sa constance, par sa fidélité à ses engagements, à ses propos passés. Et s'illustre surtout par sa haine.
Sa haine de
Bruno Retailleau, alors qui, on le sait, est ancienne, hein, mais qui a pris une amplitude particulièrement importante.
Allez.
À la suite de l'élection à la présidence des Républicains, au cours de laquelle Bruno Retailleau avait, il faut le dire, humilié Laurent Wauquiez avec un score de dictateur africain autour de 80%.
Oui, non, mais donner des chiffres exacts, Étienne Darjac, c'est la moindre des choses.
Oui, oui, je remercie.
75%.
Finissez votre tisane, voilà. Alexandre, ça ira beaucoup mieux ensuite.
Du café.
Allez.
Laurent Wauquiez depuis l'élection donc de Bruno Retailleau à la tête des Républicains, en réalité chacun de ses mouvements, chacune de ses déclarations, chacun de ses gestes ont été motivés par le but de nuire à Bruno Retailleau. C'était de particulièrement visible, ils s'en cachaient pas énormément, hein. On sait que Bruno Retailleau depuis bientôt un an déjà a perdu presque la totalité du soutien de son groupe de députés à l'Assemblée nationale, groupe de députés qui, faut-il le rappeler, est présidé par Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau, en réalité, est un président assiégé par ses propres troupes. Et finalement, ce qu'a fait Laurent Wauquiez, c'est lever le voile sur quelque chose qu'on savait déjà, c'est-à-dire que Laurent Wauquiez est capable de soutenir à peu près n'importe qui tant que ça finira par nuire à Bruno Retailleau.
Mais je pense que... pour donner mon avis personnel, ça en dit encore. Ça en dit beaucoup sur Laurent Wauquiez, mais ça en dit beaucoup plus sur LR aussi. Il suffit de regarder par exemple la prise de parole de Jean-François Copé. Alors, on se doutait que Jean-François Copé n'allait pas soutenir un candidat de droite, mais il a dit qu'il mettait par exemple un signe égal entre le Rassemblement National et la France Insoumise. Et pour traduire ce propos, et qui voterait blanc, qui s'abstiendrait en cas de duel Mélenchon-Bardella ou Mélenchon-Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Comment, pour un électeur lambda de LR, comment ça peut être lisible de voir que son parti, qui est censé être un parti de droite décomplexé, de droite qui n'a plus peur de mettre des mots
sur les mots.
Non, mais de mots sur les mots, mais de mots sur l'immigration massive, sur l'immigration galopante, sur l'insécurité, ils utiliseront jamais le mot, mais sur grand remplacement. Comment un électeur de droite lambda peut se retrouver dans un parti qui assume qu'il ne voterait pas RN contre Mélenchon, qui aujourd'hui, alors, je vais rappeler ce qu'a dit Mélenchon depuis maintenant 2-3 ans, qui a terrorisé la Nouvelle-France, qui s'est compromis dans l'antisémitisme le plus crasse, qui a défendu l'assassin de Quentin Durand.
Et qui n'a pas défendu Boulem Sansal aussi.
Oui, qui n'a pas défendu Boulem Sansal. Je pourrais le mettre en premier, mais vous m'avez ôté le mot de la mouche. Comment un électeur de droite peut se retrouver dans Jean-François Sacopé quand ce dernier assume qu'il ne pourrait pas choisir entre Marine Le Pen ou Jordan Bardella, pardon, et Jean-Luc Mélenchon? Moi, je trouve que, évidemment, que LR est un parti aujourd'hui qui ne ressemble plus à rien, qui n'a plus d'identité, entre un Aurélien Pradier qui a tous les atours d'un socialiste et un François-Xavier Bellamy qui pourrait totalement être un membre du Rassemblement National. Quel est l'ADN de ce parti aujourd'hui? Et Laurent Wauquiez synthétise très très bien cette espèce de brouillard, cette espèce de d'absence d'identité, de non-dit de ce parti KLR, qui est voué évidemment à faire un score famélique, voire à se retirer pour l'élection présidentielle de 2027.
Alexandre Delzin.
Non mais moi, pour la question de Jean-François Copé, je ne répondrai pas par des mots, mais par des chiffres. 0,3%.
Oui.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le score...
Chirurgical.
Oui, mais ça reste quand même une parole qui a été réélu triomphalement.
Mais c'est honteux ce que vous dites, c'est honteux ce que vous dites. Jean-François Copé est un phénomène médiatique, ça vaut même pas le coup d'en parler quelque part. Mais d'un autre côté, Laurent Wauquiez, oui, évidemment que son seul objectif, c'est de torpiller Bruno Retailleau, on sent une certaine forme de jalousie. Laurent Wauquiez a quelque chose qui est presque... je vais pas dire noble, mais amusant d'une certaine façon, c'est que malgré tout, c'est un des rares qui se présente pas ou qui ne donne aucun signe qu'il pourrait se présenter à l'élection présidentielle, ce qui est déjà ça de pris.
Vous rigolez, Alexandre Delzin.
Ah bah il a expliqué que justement il ne se présenterait pas et qu'il ne serait pas candidat.
Bah oui, mais tous les papiers qui sont faits aujourd'hui sur Laurent Wauquiez expliquent précisément l'inverse, à savoir que globalement, il fait semblant de ne pas vouloir y aller, d'être au-dessus de la mêlée, de vouloir faire le lien de Sarah Knafo à Édouard Philippe, etc., etc. En réalité, il essaie d'être le recours.
Bien sûr, mais d'un autre côté, en fait, je pense...
C'est le groupe de maison. D'ailleurs, Laurent Wauquiez, je pense, ne sera plus à la tête du groupe Les Républicains à l'Assemblée d'ici quelques jours, quelques semaines, et qui retournera à la région pour prendre de la hauteur et faire un énième Baden-Baden.
Ouais, j'aurais tendance à penser simplement que, évidemment, je pense tout le mal qu'il faut de Laurent Wauquiez. Simplement, j'aurais tendance à penser que, pour le coup, il a peut-être compris, peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'il a compris que c'était pas effectivement son année 2027 et que sans doute qu'il préparera le terrain pour plus tard, etc.
Mais Charles-Alexandre, il a compris. En fait, il s'est fait humilier à la présidence de LR. Donc
bien sûr.
On lui a pas laissé le choix.
Bien sûr. Bien sûr. Je dis pas que. Non, mais simplement, il a la lucidité, contrairement à 2-3 autres, au hasard, Karim Bouamran, de ne pas aller tenter une aventure personnelle absurde qui n'aurait aucune chance de fonctionner.
Oui, j'ai les mêmes infos que Stanislas Rigaud. Le problème de Laurent Wauquiez, c'est qu'il avait évidemment le syndrome plutôt de l'homme providentiel.
Le syndrome, je crois.
Oui, le syndrome pardon de l'homme providentiel. Il est persuadé que il s'imagine un peu comme un Rastignac, une sorte de destinée romanesque présidentielle. Et c'est vrai qu'avant l'élection présidentielle de l'an dernier, ce camouflet qu'il a essuyé par Bruno Retailleau, et tous les journalistes politiques étaient plutôt d'ailleurs extrêmement surpris de la déroute qu'il a essuyée, parce que
on s'attendait à un store fleuve.
Je suis pas d'accord avec vous. Beaucoup de journalistes politiques estimaient que ça allait être beaucoup plus serré que prévu, que chez les militants ça pouvait finir en 55-45 pour Retailleau. Très peu évidemment prédisaient, pronostiquaient la victoire de Laurent Wauquiez, mais beaucoup estimaient que c'était beaucoup plus serré que prévu, parce que Laurent Wauquiez est toujours très bon en campagne. On l'avait déjà vu pour les campagnes régionales, pour les campagnes aussi pour la présidence d'un parti, et là il n'avait pas forcément été catastrophique. Il avait fait sa fameuse couve du GD News. Où, la fameuse couve du GD News où il. Comment dire. Le support, il est.
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Voilà, il voulait une sorte de bagne de Cayenne à Saint-Pierre-et-Miquelon pour emprisonner tous les OQTF. Et ça avait fait quand même une sorte d'appel pour la campagne. Ça a mis un coup de projecteur sur la campagne des Républicains. Après, il s'avère que Bruno Retailleau a été extrêmement bon gestionnaire. Bruno Retailleau a très mal géré sa sortie du gouvernement, il faut le dire.
On va arriver à Bruno Retailleau parce qu'à un moment donné, certes, Laurent Wauquiez est coupable, mais il y a aussi peut-être des responsables derrière tout ça.
Oui,
comme de Bréval, peut-être sur ce que vous inspire cette énième trahison de Laurent Wauquiez.
Bah oui, c'est un énième coup de sa part. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas fait un ralliement formel. Il a juste dit des mots très doux à l'égard d'Edouard Philippe en disant que tout le mal qu'il pouvait penser en demi-mot de Bruno Retailleau, mais il n'a pas fait un ralliement formel. Et il s'amusera très sûrement à dire que non, il ne l'avait jamais rallié et à voir en fonction de comment ça se passe à la rentrée ce qu'il va faire. Il ne faut aussi pas oublier que Wauquiez, son vrai objectif, indépendamment de la présidentielle, ça va se faire réélire dans un an et demi, dans deux ans plutôt, à la régionale chez lui. Et qu'il a sûrement fait des sondages chez lui pour se rendre compte de l'état des lieux des forces et qu'il valait mieux être allié avec Horizon qu'avec l'URN. Et sûrement qu'aujourd'hui, il s'amuse beaucoup de ce coup en se disant « Ah, j'ai très bien joué ». Mais il ne se rend pas compte qu'il va sûrement perdre beaucoup de ses militants parce que plus personne ne lui fera confiance et que si les électeurs peuvent oublier, les militants ont tendance à ne pas oublier, il n'y aura plus personne derrière lui.
Étienne Dargel, vous vouliez réagir sur ce que disait Alexandre tout à l'heure.
Alors, pour être tout à fait honnête, je crois avoir déjà réagi sur ce que disait Alexandre tout à l'heure.
Vous voulez réagir, vous m'avez fait un signe de main.
Sur ce que dit Combe, je pense qu'il a tout à fait raison. Je crois que l'insincérité de Laurent Wauquiez sur cette dernière manœuvre est assez flagrante. Effectivement, les propos qu'il a tenus sont volontairement flous. C'est vrai qu'il a quand même apparu publiquement aux côtés d'Edouard Philippe à une ou deux reprises ces dernières semaines.
Petite coulisse là-dessus que je vous dévoile. Il se trouve que cette photo n'est pas le fruit du tout de Laurent Wauquiez. Et c'est une photo, il se trouve qu'il n'était pas assis à côté initialement. Et que certains auraient...
Alors, ça vient d'où, pardon, j'ai pas le contexte, je suis désolé.
Il y a une photo dans un événement...
Un événement, je crois, autour du monde de l'entreprise, il y a une ou deux semaines.
Des petits malins assez forts, pour le souligner, ont déplacé les étiquettes de Laurent Wauquiez et de Dorfie pour les mettre à côté et étaient en embuscade pour prendre la fameuse photo. Voilà, donc les mettant à côté, donc ça... De fait visiblement les affaires de Monsieur
Wauquiez.
La question que j'allais poser, c'est justement est-ce que cette division de Laurent Wauquiez a tendance, est destinée à affaiblir Bruno Retailleau ou alors est-ce que c'est simplement justement Bruno Retailleau qui s'en sert pour purger Laurent Wauquiez?
Mais pas du tout.
Évident pour nuire à Bruno Retailleau
n'est pas capable. Là, Bruno Retailleau lui répond aujourd'hui dans la Provence en disant lui aussi tout le mal qu'il pense de Laurent Wauquiez. À un moment donné, il est président du parti.
Il a des propos extrêmement sévères.
Je crois Darius Rochebain qui avait interrogé Bruno Retailleau en lui disant « Mais si vous n'êtes pas capable de tenir votre parti, comment êtes-vous capable de tenir un pays ?»
Après, la vérité, c'est
comme de Bradal.
Enfin, Bruno Retailleau, il a fait alliance avec Horizon aussi, donc il ne peut pas trop reprocher à Wauquiez de dire ce qu'il dit.
Oui, mais la vérité, c'est tout ça, c'est des batailles personnelles, des revanches personnelles. On serait bien que Laurent Wauquiez a pour seul objectif de nuire à Bruno Retailleau parce qu'il l'a battu à plate couture il y a un an. À l'élection du parti, et évidemment que ça grandit pas la politique, et évidemment que moi je pense personnellement que Bruno Retailleau sera obligé, à un moment ou à un autre de la campagne, de se retirer au profit d'Edouard Philippe, parce que les sondages, les faits, mathématiquement, il se rendra compte qu'il sera pas en mesure d'accéder au deuxième tour. Mais moi je trouve que cette guéguerre-là, ces égards-là ne grandissent pas la politique et désintéressent totalement les Français. C'est-à-dire que les Français s'en fichent totalement de savoir si Laurent Wauquiez.
Non, mais vraiment. Je suis pas d'accord avec ça.
Si, arrêtez. Vous pensez vraiment que la majorité française se dise Laurent Wauquiez a osé dire que Bruno Retailleau a osé dire qu'il est soutenu Edouard Philippe pour Bruno Retailleau, je vais changer mon vote.
Là,
vous vous fourvoyez totalement. C'est vraiment des débats de parisiens de trois arrondissements. Alors, on en parle ce soir. Mais je trouve. Mais là, vraiment, vous êtes déconnecté du peuple si vous pensez que les Français ont quelque chose à faire de ça.
J'ai pas dit c'est le sujet qui les préoccupe au moment du vote. Simplement, ce sont des sujets que les Français apprécient. C'est l'espèce. Non. C'est la Netflixisation de la société. Les gens aiment beaucoup les affaires politiques. Les gens suivent ça avec passion. Ils regardent ça avec beaucoup de distance.
Pas du tout, les Français s'intéressent à la campagne une semaine avant.
Non, ils adorent savoir qu'un tel a trahi un tel.
Non,
ils adorent
c'est
ça.
Pas vrai du tout.
Mais si.
Mais justement, ils se désintéressent de ça totalement.
J'ai pas dit qu'ils aimaient les politiques, qu'ils s'intéressaient aux programmes ou qu'ils s'intéressaient aux idées. Simplement, les Français aiment bien savoir.
Je suis pas du tout d'accord. Bah, justement, pour moi,
un cercle d'amis, quand vous voyez un cercle d'amis,
mais nos cercles d'amis sont pas représentatifs de la France.
Non, bah, pardon, bah, si, moi,
pas du
si,
tout.
Bah, les miens, si. Bah, les miens, ils sont pas qu'à Paris, justement. Les amis, ils sont pas tous.
D'accord, mais ils suivent la politique.
Mais pas tous. Bon, ils sont tous capables de vous parler d'un feuilleton entre deux personnes. Baladur Chirac, les gens ont adoré.
Non, mais je pense vraiment que Stan, vous fourvoyez que la majorité des Français s'intéressent à une présidentielle deux ou trois semaines avant. Mais c'est d'ailleurs prouvé dans les accords d'opinion. Et je ne jette pas du tout la pierre aux Français. C'est juste que pour l'instant, c'est qu'il y aurait le picrocolline qui arrive 9 mois à la présidentielle. Sont des effets de manche, sont vraiment des événements créés toutes pièces par les médias qui ont besoin de se mettre un os à ronger pour pouvoir vendre du papier ou en parler.
À propos d'événements toutes pièces créés par les médias,
dites-nous elles, sans vous avez.
Il y en a plusieurs qui sont apparus ces derniers jours. J'en ai deux en tête.
Dites-nous.
Un, Hamza Ladouane. Peut-être commençons par ça.
Hamza Ladouane.
Je suis pas d'accord avec vous.
Etienne Darjac qui travaille dans le. Vous avez été consultant longtemps dans un groupe de défense à l'international, est-ce que vous avez peut-être sur Hamza Ladouane un regard?
Alors expliquez déjà rapidement qui c'est, peut-être pour nos éditeurs qui ne le sauraient pas.
Vous étiez parti.
Non mais très rapidement, Hamza Ladouane est un jeune de 14 ans qui s'amuse à terroriser le canal Saint-Martin alors que des gens vont vouloir s'y baigner. Mais globalement, l'affaire a été montée en épingle à un niveau, à mon sens, tout à fait ridicule, à un niveau qui est absurde. Enfin, je voudrais citer BFM TV, ou en l'occurrence, qui fait un direct en expliquant que Hamza Ladouane est présent mais qu'il n'a pas son pistolet à eau pour ennuyer les passants. Enfin, c'est-à-dire que...
Mais c'est pas ennuyer les passants, pardon.
Si.
Bah non, je suis pas d'accord, pardon, mais si vous passez demain matin, alors vous allez au travail.
Oui, c'est ennuyer les passants.
Non,
si je suis un passant, il m'ennuiera.
Il ne fait pas qu'ennuyer les passants, il insulte les gens, il pousse les gens dans l'eau.
Ce que je dis,
il a menacé, il a essayé de s'introduire. Il a essayé de s'introduire par effraction chez une riveraine, qu'il a insulté, il a insulté la police, il a jeté des jeunes filles dans l'eau, donc au bout d'un moment, ça suffit que cette petite racaille fasse sa loi.
Je
suis d'accord avec Étienne, on n'est pas encore des jeunes à 14 ans par hasard.
Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut juste du cirer la veste, attention, il est mineur, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le mettre en tôle. La vérité, c'est qu'Hamza Ladouane, il a besoin que son père ou son frère ou n'importe qui lui mette une énorme raclée.
Et peut-être vous d'ailleurs.
Et ça le calmera. Et peut-être moi, c'est pas un problème.
Parce que vous en avez la possibilité, Tinder Jock.
sans doute, cher Alexandre.
Oui, ça c'est possible. Et dans la volée là-dessus, sur le sujet. Alors, attendez, pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet. Est-ce que la presse, notamment les chaînes info,
non, mais évidemment, évidemment, c'est une évidence même.
Voilà,
oui, et il y a une espèce de starification.
Enfin, je veux dire.
Parce que Alexandre ne défend pas Hamza Ladouane. Arrêtez, c'est ridicule ce que vous dites.
Vous dites il aurait mis les passants.
Non mais
c'est
ça, attendez, vous ne convainquez personne. Que une... Évidemment que la presse on a trouvé parce qu'on est au début juillet.
Un peu de nuance,
il y a beaucoup moins de sujets à traiter et que
pardon, si on... c'est pas vrai.
Non, moi je suis d'accord avec vous sur le fond.
Il y a l'euthanasie, il y a beaucoup plus de sujets très très intéressants.
C'est très juste. C'est très juste. C'est un sujet très dur à traiter. On en parlera sûrement tout à l'heure parce que la majorité des Français sont pour.
C'est sûr, c'est plus dur à traiter qu'il y a.
Non, attendez.
Ça, Edouard, là vous les finir.
Rentrons pas sur l'euthanasie.
Et pour revenir sur Hamza Ladouane, moi je pense vraiment et moi je trouve que vous minimisez beaucoup
ce
symptôme que là, bah oui, j'irai chez l'orthophoniste lundi si vous voulez, vous m'accompagnerez. Beaucoup le symptôme Hamza Ladouane,
oui,
parce que vous dites qu'il ennuie. Non, il ennuie pas.
Oui,
vraiment, il terrorise le quartier. Il a été mis en examen à 14 ans parce qu'il a eu une intrusion chez une riveraine pendant quelques minutes.
C'est parce que les médias l'ont fait.
Mais non, mais
bien sûr que si.
Il a dérobé un téléphone portable. Il a jeté des panneaux de signalisation sur des gens. Il a coulé des panneaux de signalisation. Il a en fait tout ça.
Mais
c'est
attendez,
un système.
Si on avait fait des reportages télé sur toutes les conneries que j'avais faites dans ma jeunesse,
vous faites partie du relativisme ambiant qui a conduit à l'ensauvagement de la société, Monsieur Galzin. C'est-à-dire que si on laisse cette mauvaise graine prospérer, cette mauvaise graine grandir, et bah évidemment qu'on aura des graines de délinquants et tout ça, ça va venir à Vendin le Vieil. Mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, en 2026, on peut. Moi, j'ai le côté évidemment optimiste. On peut sauver Hamza Ladouane en lui mettant des garde-fous très tôt.
Ouais,
Mais évidemment, c'est la raclée.
Voilà. Tom de Breval.
Moi, je dirais garde-fous. Il faut être très ferme avec Hamza Ladouane, mais bon. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un comme lui qui dérange les gens au canal Saint-Martin qu'il faut que les médias s'y intéressent, c'est partout en France.
Il y a un coup de couteau toutes les 40 secondes
Hamza,
en France, en fait,
Hamza,
à partir de ce moment-là.
C'est celui. Non, mais je vais être un peu caricatural, mais c'est parce qu'il y a des Hamza comme ça à 14 ans qui font ce qu'ils veulent, qui peuvent agresser des gens. Parce que, pardon, vous dites ça, Galzin, si on vous voyait
Galzin,
un matin.
Alors,
vous arriveriez le matin ici sur Radio Courtoisie en vous faisant bousculer.
Mais je le calme. En fait,
ils sont 150. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gens-là? Non, je vais finir.
Rigo a raison.
C'est plus que ça. C'est plus que là. ça veut dire quelque chose. C'est toujours les mêmes profils. Ce sont... Non mais attendez, là, vous faites...
Ça, je suis pas contre.
Là, mais
ça, je suis d'accord.
Vous mettez les mains en l'air. Non. Simplement, ça, attendez, vous êtes en train de minimiser en disant non. Ils ennuient des gens, ils n'ennuient pas des gens. Écoutez. Ils agressent des gens, écoutez. Ils insultent des gens.
Ils font stop. Leur loi, ils font leur loi.
Okay. Ça, je vais la refaire. Je vais la refaire très simplement. Je m'exprime très rapidement. En fait, je pense simplement que, évidemment, que c'est un sujet en soi, mais c'est un sujet qui devrait faire une page dans, ou deux pages dans Le Parisien sur un reportage, etc. Le fait, à mon avis, qu'on lui donne autant d'ampleur, évidemment que ça le permet, ça lui donne une importance qu'il n'a pas, et donc du coup ça l'incite à faire tout ça. Et je pense qu'effectivement,
il les a médias... pas besoin des médias pour ça, il les en avait avant.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que les médias quelque part lui mettent autant les projecteurs sur lui, évidemment l'encourage à faire toutes ces débilités. Et oui,
en fait, c'est pas des débilités.
Non mais si, en fait,
non.
C'est
de
l'incite. Non, c'est... non, c'est pas le mot débilité. Vous évidemment vous sous-estimez ce qu'il fait parce que. On n'est pas mis en garde à vue.
Mais à l'origine, qu'est-ce qu'il faisait?
Il insultait des gens.
Il arrosait pas seulement les gens.
Oui. Il les insultait. Il leur lançait aussi des panneaux de signalisation ou des plots.
Mais, non, ouais. Mais si. Il l'a fait à partir du moment où les médias ont mis
des projecteurs sur les gens. En fait, pour vous, les responsables, c'est les médias.
Mais les médias n'ont pas de responsabilité là-dedans.
Mais d'ailleurs, quand les médias vont enquêter dans les cités et les banlieues qui se font attaquer.
Mais ils étaient en direct.
Non, mais là, pour le coup, vous êtes.
Partir du moment où vous faites une interview de Hamza Ladouane en expliquant que en fait c'est un sujet de société, en fait déjà ça concerne,
mais oui,
ça concerne un sujet de société.
Est-ce qu'on peut parler aussi
d'un sujet médiatique? Attends,
c'est évidemment que c'est un, évidemment que tous ici on trouve ça absolument grotesque la couverture médiatique qui est faite de cette espèce de petit débile, parce que c'est ça que c'est. Évidemment que c'est grotesque, mais c'est pas parce que c'est grotesque que les agissements d'Hamza Ladouane ne sont pas anormaux et qu'il faut pas réagir. Évidemment que on peut minorer en disant oui, c'est des pistolets à eau, oui, c'est bon enfant. La vérité, c'est que c'est une petite racaille de 14 ans qui n'a aucun encadrement, aucun principe, qui ne respecte, qui est déjà habitué à ne respecter aucune loi et qui fait de fait depuis bientôt 3 semaines sa loi dans une rue de Paris.
Oui,
c'est tout.
Je suis d'accord.
Donc, effectivement, pour l'instant, il agresse pas les gens, il viole pas encore. Mais pardon, c'est comme ça que ça va tourner.
La transition est peut-être un peu brutale. Moi,
non, elle est pas brutale.
Ce qui est absolument pas brutal.
Le fond du sujet est là.
Ce qui est aussi assez révélateur, c'est la réaction du père. Vous avez vu la réaction du père, qui est évidemment relativisé totalement les agissements d'Hamza Ladouane, qui a dit bon, Hamza ne fait rien de mal, lâchez-lui la grappe et arrêtez de l'embêter. Arrêtez, il fait rien de mal. Il a été mis en garde à vue. Il emmerde. Oui, pour le coup, il emmerde vraiment les gens.
Pas de vulgarité, s'il vous plaît.
Non, il importune les gens.
Il les chatouille, il dirait.
Il a poussé des gens dans l'eau, parfois avec des personnes avec leur téléphone. Donc, imaginez le prix du préjudice. Et évidemment que c'est plus que pour moi, c'est un peu de la décivilisation. C'est-à-dire qu'on part d'un moment où c'est pas des zones de non-droit.
Et vous avez écrit un essai dessus,
je crois. Non, mais monsieur Galzin, laissez-moi finir. C'est des zones d'un autre droit qui sont créées où c'est plus la loi de entre guillemets
de l'État,
la loi de la République qui est évidemment érigée en sacro-sainte loi, sacro-sainte règle, c'est la loi de la minorité, c'est la loi du gang, c'est la loi du groupe, et la loi du groupe, c'est le groupe d'Hamza, qui estime que bah évidemment pour progresser dans le groupe social faut pousser un kidam, un inconnu
dans le cadre social, pour progresser dans le groupe social, faut pousser quelqu'un en vélo.
Pour progresser dans le groupe social, faut s'introduire dans une maison d'un particulier. Non mais vous rigolez. Moi je pense vraiment qu'il y a une sorte de société parallèle qui s'est créée chez ces jeunes de 14 ans et qu'il faut évidemment juguler ce problème-là le plus tôt possible, sinon après on va avoir des zones de noir qui vont se créer dans des quartiers et pour le coup ce sera beaucoup moins parce que ce sera des zones de narcotrafic.
Ça existe déjà.
Et moi j'ai l'impression d'être précurseur là-dessus. Non, je plaisante.
J'ai jamais entendu ces paroles.
Je vous invite aux écrits de Christophe Guilluy ou de Jérôme Fourquet. Je sais pas si vous connaissez des auteurs assez connus à l'heure actuelle. Non, je plaisante. Des auteurs très connus, mais il faut évidemment se rendre compte que le problème naît évidemment à la racine, et que d'Hamza Ladouane, on en a des centaines aujourd'hui en France.
Merci.
Des millions, tous beaucoup plus dangereux par ailleurs.
Alexandre Biazin, vous aviez un deuxième sujet qui a été monté de toutes pièces par les médias. En tout cas, c'est ce que vous avez.
Alors, moi, pour le coup, je vais prendre un ton un peu plus grave, peut-être, parce que c'est quelque chose qui me touche assez personnellement.
Oh non, commencez pas à faire la planicheuse.
Non, mais c'est assez terrible ce qui m'arrive, c'est-à-dire que je suis menacé. Je suis menacé et c'est quelque chose qui effectivement, c'est aujourd'hui, ça me touche particulièrement en tant que journaliste et aussi en tant qu'humain.
Je comprends votre émotion.
quelque part. Merci. Merci. Aujourd'hui, j'ai reçu des tweets de. Ben, des messages.
Je peux être plus précis. Prenez le temps si vous voulez.
Des messages de haine. De haine. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la haine, de la violence, de. De. J'avais fait. Et j'avais pris une position sur le chat de.
Allez, allez, faut y aller maintenant.
Allez.
Allez, Alexandre, faut y
sur
aller.
Faut y sur aller. Le chat d'Olivier McKeboul, où j'avais dit que le chat Gina, le chat d'Olivier McKeboul devait être protéonisé par Abzal Adouane. Voilà, c'est. Je l'ai dit, je l'assume, et en fait, même ce soir, je vais vous dire. Enfin, même ce soir, en fait, je le réaffirme et je le redis.
Ah, ça va être.
Et si je dois le dire plus fort, je le dirai plus fort. Et si
stop.
Vous voulez.
Stop, stop, stop. C'est évidemment très drôle. Attendez, on va remettre un peu le contexte.
Drôle.
Pour nos auditeurs. Vous avez ce qui s'est passé. Et arrête, on va arrêter de la blague, évidemment. Évidemment, il s'est passé que. Il y a eu ce drame, évidemment, humain.
Ce drame, c'est le beau.
Non, mais on peut y aller deux secondes. Il y a eu ce drame atroce, évidemment, pour monsieur Benjamin. Évidemment, il y a eu un tollé médiatique. Parce qu'en effet, la SNCF est en partie responsable. Et d'ailleurs, la SNCF.
Expliquer peut-être.
Ah, je suis en train de le faire. Donc, ce qui s'est passé est très simple, c'est qu'il y a eu ce drame d'un chat qui est décédé.
Gina.
Le chat a un nom, monsieur. Arrêtez de déshumaniser les chats.
Stop.
Rina. Rina en italien.
Hey, arrête. On va peut-être mettre un peu de musique, je pense, pour apprendre. Doucement après. Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish! Throw it down by my side." And he wants all to bench, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, ponties bursting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants, and the stuff that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, they bargain their virtue, their goodness all gone, for a few dirty coins, when he just can't go on. Throws his nose through the sky,
Savez-vous que l'été dernier, plus de 300 000 chiens et chats ont été abandonnés sur la route des vacances? Chaque année, des maîtres indignes claquent leurs portières et s'en vont, laissant derrière eux un compagnon fidèle qui, lui, ne les aurait jamais abandonnés. Cet été, n'abandonnez pas Radio Courtoisie, qui, elle aussi, reste fidèlement à vos côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons besoin de 200 000 euros pour continuer à émettre cet été et vous préparer une rentrée percutante. Un euro, rien qu'un euro, pour nous aider à traverser la période la plus difficile de l'année. Ne nous abandonnez pas. Par avance, merci de votre fidélité. Cet été encore, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Radio Courtoisie, libre et indépendante, grâce à vous.
Bonsoir à tous, de nouveau en direct sur Radio Courtoisie. Alors, chers auditeurs, veuillez nous excuser. Nous vous présentons évidemment nos excuses pour ce fou rire évidemment d'un sujet qui est une... ce qu'on appelle une blague privée que nous avons eue évidemment auparavant. Rappelons le contexte de façon plus formelle et de façon moins humoristique. Il se trouve qu'il s'est passé un drame pour M. Ben Kemoun qui a eu son chat en effet.
Décapité.
Décapité. Donc Olivier Ben Kemoun, le présentateur de CNews,
si qui a eu un drame dans ses vies. Il se trouve qu'il y a Alexandre Galzin. Vous avez fait un tweet moqueur et provoque à souhait, et il se trouve que vous avez reçu des menaces par la suite, ce qui est évidemment condamnable. Évidemment, toute blague mise à part, évidemment, tout fou rire mise à part, fou rire nerveux que chacun a déjà expérimenté dans sa vie, évidemment, nous sommes, ce sujet est important, et d'ailleurs, Radio Courtoisie a évidemment raison de soutenir avec les animaux, et d'ailleurs, je crois que ça fait partie aussi du patrimoine, et d'ailleurs, toute personne qui a été scout sait l'importance qu'il faut donner à ce sujet-là, qui est très important, et donc, évidemment, nous sommes très heureux pour en parler, et veuillez nous excuser, évidemment, pour ce fou rire, qui n'est d'autre une simple blague qui est entre chroniqueurs. C'est aussi, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, l'ambiance de cette émission, vous la connaissez, où c'est une bande d'amis qui se retrouvent pour rigoler entre différents chroniqueurs. Et évidemment, c'est ce qui fait, je crois, la bonne ambiance de cette année. Et en tout cas, nous sommes heureux de parler de sujets, évidemment, tout aussi intéressants, mais en tout cas, de façon légère, avec un avis de fond. Et j'en profite également, évidemment, pour remercier Radio Courtoisie et toutes ces équipes de talent, et je vous invite à soutenir cette radio qui permet justement ces moments de fou rire et aussi ces moments un peu sortis de route qui sont évidemment amusants. Donc, chers amis, je vous invite évidemment à soutenir toutes ces causes et la cause animale évidemment, mais aussi évidemment Radio Courtoisie. Sujet évidemment également dans l'actualité et qui sera, je crois, plus difficile ou en tout cas moins sujet au fou rire. Un grand sujet traverse notre époque et notre génération aujourd'hui. En tout cas, nous le vivons pour la première fois, et tous ici autour de cette table. C'est les sacres de Saint Pie X qui ont eu lieu à Écône ce mercredi. Donc tout le monde, évidemment, enfin beaucoup de gens, j'imagine, ont suivi ça. La Croix, on a fait ça une. Le Figaro, on a fait différents papiers. Donc peut-être, Étienne Darjal, si vous voulez nous resituer un peu ce sujet, qui est un sujet ô combien important pour l'Église, avec un grand E, évidemment.
Et pour de nombreux auditeurs aussi, qui évidemment sont sensibles à la question traditionnaliste.
Oui, oui bien sûr. Alors, pour resituer, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de Vatican II et de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, je pense que tout le monde la connaît à peu près. L'essentiel de l'actualité, c'est qu'il y a quelques mois, la fraternité Saint-Pie X a annoncé, ce qui était attendu hein, depuis quelques années, qu'elle allait à nouveau sacrer 4 évêques. Ce qui était déjà arrivé en 1988 et qui avait à l'époque entraîné l'excommunication des évêques, des nouveaux évêques en question, des évêques consécrateurs et déjà à l'époque des fidèles qui adhéraient à cette consécration. Évidemment, quand la fraternité a annoncé qu'elle avait l'intention de reprendre, de recommencer ses sacres, tout le monde s'est un peu raidi. On savait qu'on avait plutôt, il y avait plutôt eu un apaisement. Très progressif, très lent des relations, on va dire, diplomatiques entre la fraternité Saint-Pie X et le Vatican, notamment sous le pontificat de Benoît XVI, mais aussi, il faut le dire, sous celui de François. Et donc, il y avait cette crainte, malheureusement aujourd'hui concrétisée, que c'est la reprise de ces sacres et la consécration de 4 nouveaux évêques réveille un peu la guerre des chapelles. Le pape, à la veille encore, jusqu'à la veille des ordinations, a écrit une lettre suppliant presque la fraternité Saint-Pie X de ne pas consacrer ses évêques, de revenir sur sa décision, de trouver un chemin de dialogue qui permettrait d'envisager une autre solution. La fraternité a néanmoins consacré ses évêques. Et le pape, via le dicaster pour la foi, je crois, a réagi hier matin en annonçant l'excommunication des évêques consacrateurs, des nouveaux évêques, et comme en 88, de l'ensemble du clergé de la Fraternité Saint-Pédis et des fidèles qui adhèrent formellement. Alors on va en discuter parce qu'il y a une petite discorde, mais je crois que c'est assez clair au fond.
Ouais, très clair,
et des
ouais.
fidèles qui adhèrent à la fois à la Fraternité Saint-Pédis d'une façon globale et qui adhèrent surtout à cette nouvelle consécration.
Alors, ce qu'il faut expliquer aussi, il y a un point qui est essentiel là-dedans, c'est la validité des sacrements. C'est-à-dire qu'en fait, tous les sacrements qui seront prononcés donc par la Fraternité Saint-Pédis seront valides, sauf deux, seront illicites, mais valides, sauf deux, donc qui seront la confession et le mariage. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous confessez auprès d'un curé ou d'un évêque Saint-Pédis, ce ne sera pas considéré comme étant une vraie confession. Idem pour un mariage célébré par un prêtre de la fraternité ne sera pas considéré comme un mariage valide selon l'Église catholique. Donc ça, c'est un point qui est quand même, à mon sens, assez essentiel. Et d'un autre côté, en fait, le vrai sujet dans tout ça, c'est que en fait, on est dans une querelle de chapelle, vous l'avez dit, Étienne Darjac.
Enfin, c'est plus que ça, c'est pas une querelle de chapelle.
Bien sûr, mais dans le sens où, si vous voulez, évidemment qu'il y a deux... maintenant, on peut le dire, mais il y a deux institutions opposées sur ce sujet. La question qui se pose, c'est la question fondamentale du Concile Vatican II n'a toujours pas été résolue. Et d'une certaine façon, ce qu'on observe, c'est que justement la Fraternité Saint-Pédis ne reconnaît toujours pas sa validité, ne se considère pas comme, c'est des vacantistes, c'est un autre point qu'il faut dire, parce qu'ils considèrent que le pape est toujours le vrai pape, mais qu'il est dans l'erreur sur le point précis justement du Concile Vatican II. C'est un schisme, c'est le terme qu'a utilisé le cardinal Müller, qui est pourtant plutôt favorable aux traditionalistes, hein, il faut le dire. En l'occurrence, on est dans une situation qui est assez ambiguë, mais qui relève d'un problème de fond, finalement, qui est que le Concile Vatican II n'a toujours pas été soldé au niveau de la Fraternité Saint-Pédis.
Étienne Darjac, et puis Tom de Bréval et Edouard Lavolée.
Plusieurs points de désaccord avec vous, Alexandre. Le premier, est-ce que le Concile Vatican II n'a toujours pas été soldé? C'est pas tout à fait vrai. La vérité, c'est qu'en fait, il a été soldé,
il a toujours été soldé
à peu près tout le monde,
oui.
Sauf la Fraternité Saint-Pédis.
Oui, oui.
Il existe désormais, depuis de longues années maintenant, des communautés traditionnalistes au sein de l'Église qui, disons, s'accommodent au moins du Concile Vatican II et de leurs aspects les plus urticants. La seule question qui demeure, c'est celle de la Fraternité Saint-Pédis. C'est en tout cas la seule entité qui continue à s'arc-bouter, à tort ou à raison, hein, je prends pas parti, qui continue à s'arc-bouter sur ces questions. Le deuxième désaccord, c'est sur l'aspect nouveau de la crise qu'on vit. Pour moi, en fait, il y a un statu quo ante. Globalement, les mêmes causes produisant les mêmes effets.
C'est un renouvellement,
C'est pas un renouvellement, c'est un retour en arrière dans la mesure où, là, aujourd'hui, là, maintenant, au moment où on parle, la différence entre la situation qu'on avait avant les nouveaux sacres et celle d'aujourd'hui, c'est en fait l'annulation des différentes mesures d'apaisement qui avaient été prises par le Vatican, c'est-à-dire la reconnaissance des sacrements, la levée temporaire, il faut le redire, des excommunications, et la reprise, on va dire, du dialogue entre la fraternité et le Vatican. En dehors de ça, en fait, la situation est toujours la même. Je crois que le point le plus intéressant et qui dira beaucoup sur l'évolution de ces questions et qui, je pense, va pas dans le sens d'une réconciliation, c'est que en 88, la fraternité est encore relativement jeune. Et la quasi-totalité des gens qui fréquentaient la Fraternité Saint-Pédis avaient connu l'Église préconciliaire, avaient connu l'Église avant la fraternité. Je pense qu'aujourd'hui, à part les plus anciens, une très grande partie des fidèles de la fraternité, et on l'a vu pendant les sacres, hein, la foule était très très jeune, ont grandi que dans la Fraternité Saint-Pédis. Donc je pense qu'ils ont intériorisé beaucoup plus que leurs parents, leurs grands-parents, cette espèce de vie à part. Et donc, j'ai tendance
est-ce
à penser.
Est-ce qu'ils ont les mêmes conflits que Vatican II?
J'ai tendance à penser que là où les sacres de 88 avaient provoqué des départs assez importants de prêtres et de fidèles qui étaient revenus au Vatican.
Il s'est dit qu'il y en a quand même.
Il y en aura sans doute, évidemment, mais je pense que ça sera beaucoup plus marginal parce que je pense la génération actuelle frateuse, pour le dire comme ça, est habitué et en fait à acter déjà depuis toujours qu'il y avait un fossé avec le Vatican et que c'était très bien comme ça.
Comme de Bréval.
Sur la question de l'âge, oui, c'est très intéressant, notamment pour les évêques qui ont été sacrés, qui sont très jeunes, n'étaient sûrement pas nés, et s'ils étaient nés, ils avaient 5 ans, donc ouais, pas trop suivi ce qui s'était passé à ce moment-là. Et sur effectivement, en fait, ceux qui en soufflent le plus, c'est les tradis, où il y avait toujours une forme de flou entre Saint-Pilice et les autres communautés qui étaient plutôt de ce côté-là. Et là, la scission est beaucoup plus actée, avec il y aura moins de dialogue, et donc c'est encore plus marginal que ça ne pouvait l'être avant.
Oui, mais quand vous dites qu'il y a une saleté pour les tradis notamment Saint-Pierre, Christ roi, etc., ils n'en pâtissent pas d'ailleurs, ils sont les premiers à communiquer, expliquant que Saint-Pierre.
Ça change rien en fait.
Bah oui, pour eux ça change.
Oui, mais
en fait,
si tu étais Saint-Pierre et tu pouvais mettre tes enfants dans une école Saint-Pilis, ou tu pouvais parfois aller dans une messe Saint-Pilis, ce sera beaucoup moins le cas.
Ah, ça a marginalisé Saint-Pilis de nouveau. C'est vrai que la différence, c'est que certains arrivaient à concilier le fait d'aller à Saint-Pilis, et après tout, c'était une messe tradie. Un peu, j'exagère évidemment, parce qu'on parle de ce sujet de façon évidemment. Personne ici autour de la table n'est théologien évidemment et n'a la maîtrise parfaite de ces sujets qui en réalité, c'est là où c'est passionnant, c'est un sujet très très juridique en réalité entre différentes conceptions. C'est en fait à la fin.
Juridique, je sais pas.
Mais c'est plus une affaire politique qu'une affaire théologique.
En fait, pardon, si je veux résumer, en fait, ce que disait Koum était très intéressant, c'est justement que. Il y a plusieurs manières d'être tradit aujourd'hui et justement d'adhérer à la messe traditionnelle et justement de la suivre et justement de refuser la messe ordinaire. Et d'ailleurs, je crois que le pape François et que le pape Léon XIV ont été plutôt ouverts justement sur cette messe traditionnelle, à la différence du clergé français qui était beaucoup plus récalcitrant. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de communauté qui s'est bâtie autour de la fraternité Saint-Pélis, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'écosystème qui s'auto-entretient. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, est-ce que les jeunes qui sont dans la fraternité Saint-Pélis ont connu Monseigneur Lefebvre, même pas de près ou de loin c'est-à-dire que c'était il y a 38 ans, je crois, qu'il y avait le dernier... le dernier conflit, c'était 1988, justement le...
Quasiment 40 ans.
Oui, c'est ça, 38 ans, voilà, quasiment 40 ans. Et d'une certaine façon, évidemment que beaucoup de jeunes qui ont même... Et ça pose une autre question, c'est évidemment tous les jeunes qui ont rejoint la foi catholique par la fraternité Saint-Pédis, aussi, eux, ils ont été entraînés dans une forme de communauté. La question, c'est au niveau dogmatique, au niveau de l'appartenance à l'Église catholique, qu'est-ce qu'on en retient? C'est ça qui, pour moi, se pose aujourd'hui. Et évidemment, la fraternité Saint-Pilice, c'est sans doute auto-entretenu comme communauté. Ce qui, évidemment, il y a un effet social derrière qui est assez évident et qui rend la situation d'autant plus complexe pour eux.
Étienne Darjac.
Oui, moi je crois quand même que il y a peut-être un tout petit peu d'hypocrisie des deux côtés. Évidemment, le renouvellement des sacres a été l'occasion de ressortir de nombreux débats théologiques sur le Concile Vatican II, sur, de façon plus générale, la conception que se font les catholiques de l'Église aujourd'hui, et particulièrement au XXIe siècle. Je crois quand même que le fond du sujet, c'est une bonne vieille affaire de politique. On l'a dit, les précédents sacres datent de bientôt 40 ans. Aujourd'hui, sur les 4 évêques qui avaient été sacrés, l'un était exclu et je crois est mort depuis, un autre est mort, il en reste 2 qui sont vivants et qui sont particulièrement âgés. Je crois que la phrase Saint-Pédis, si elle n'avait pas consacré d'évêque aujourd'hui, en fait, la question de sa survie se posait.
Oui.
La phrase Saint-Pédis a besoin de prêtres et a besoin d'évêques pour continuer à vivre, pour continuer à administrer les sacrements. Donc si vous voulez, il y a eu... je pense un coup de poker des deux côtés. La phrase Saint-Pilice a voulu faire une démonstration de force. Le Vatican a répondu en disant, en haussant un peu le ton. En réalité, je suis pas persuadé qu'aucune des deux parties avait l'intention de céder quoi que ce soit. Le Vatican étant mis devant le fait accompli, c'est mon avis, évidemment.
Un peu nuancé, c'est-à-dire qu'ils ont été prévenus quand même.
Alors, oui,
évidemment,
bien sûr.
L'agenda diplomatique pontifical est extrêmement complexe. s'ils l'ont pas découvert du jour au lendemain.
Ah voilà, non, je dis pas. Mais quand je dis qu'ils ont été mis devant le fait accompli, c'est que malgré les différentes discussions qu'il y a pu avoir, et on peut regretter par ailleurs que le supérieur de la fraternité n'ait pas été reçu au Vatican par le pape, quelque part, le Vatican, à moins de sortir humilié et en crise d'autorité, n'avait pas d'autre choix que de réagir en 2026 comme il avait réagi en 1988. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens sont scandalisés. Au fond,
ça, c'est pas un immense.
Non, sur les réseaux sociaux. Nous parlons d'un petit monde, évidemment. Mais voilà, je crois que il y a eu une démonstration de force du Vatican, qui est une réponse à la démonstration de force de la Fraternité Saint-Pédis. So what? Encore une fois. Si on dézoome et qu'on sort de la période qui en soi est bien sûr douloureuse, parce que c'est toujours douloureux pour un catholique de voir l'Église se déchirer, si on dézoome un peu et qu'on se repose la question en 6 mois, je crois qu'au fond, il n'y aura pas grand-chose qui aura changé.
Peut-être sur ces paroles, sauf si quelqu'un évidemment veut ajouter un commentaire, une remarque. J'en profite d'ailleurs, chers auditeurs de Radio Courtoisie, avant de changer de sujet, de parler d'un sujet tout aussi important, voire plus important, parce que plus urgent peut-être, en tout cas à l'instant T, évidemment, le sujet de l'euthanasie, nous en avons parlé quelques instants. Évidemment, chers auditeurs, vous pouvez continuer de soutenir Radio Courtoisie et surtout, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez évidemment le faire. Et Alexandre Dialzin va nous donner l'adresse mail à contacter.
Si
vous le souhaitez.
Non, mais pardon, c'est quoi c'est, alors, il y en a plusieurs des adresses mail, mais c'est en l'occurrence, c'est pardon. Comment ? Non, c'est je sais plus. Il y a la plus.
Alexandre.
Secrétariat. Non, c'est secrétariat.
Non, c'est RC. En tout cas, vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez sur rc courtoisie@contact.fr.
rc@contact.fr.
Non, c'est
On va le refaire tranquillement. Voilà. Évidemment, ce n'est pas du direct, donc il n'y a pas de souci, mais.
Si, enfin, bon, en tout cas, vous pouvez nous contacter.
On va vous la donner dans quelques instants, évidemment. C'est évidemment, je pensais, excusez-moi, cher Alexandre, vu que vous travaillez ici, je pensais que vous maîtrisiez l'adresse.
Mais en fait, ça dépend des émissions. Et pour tout vous dire, durant la matinale, les auditeurs peuvent nous appeler, bien entendu. Mais en l'occurrence, nous n'avons pas la joie de recevoir
la régie qui supporte nos erreurs aujourd'hui de façon un peu cruelle. Chers amis, sujet évidemment on ne peut plus important, un peu plus grave, le sujet de l'euthanasie, sujet qui est en voie malheureusement de passer en France, puisque le 15 juillet prochain nous serons fixés sur le sort de cette triste loi qui permettra l'encouragement du suicide assisté et qui en plus de plonger le pays dans une destruction de son lien social une fois plus encouragera et permettra à des médecins d'administrer la mort. Peut-être Edouard Lavolée là-dessus, vous qui avez été à la manifestation dimanche dernier, manifestation organisée notamment par la Marche pour la Vie, la Fondation Le Jeune, les AFC avec un grand succès, plus de 5000 personnes réunies, une organisation absolument incroyable. Donc voilà,
je pense que vous m'avez confondu avec un être qui me ressemblait, j'étais pas du tout à la manifestation, mais je vais être le mauvais policier là-dessus. Je peux comprendre les partisans de l'euthanasie. Attendez, moi je suis défenseur de la liberté avant tout, et une personne qui est extrêmement malade avec la maladie de Charcot, qui a vraiment une souffrance insupportable, une souffrance vraiment qu'on n'a jamais connue nous et qu'on connaîtra jamais de notre vie, à quel moment on peut dire à cette personne, non, mais en fait, tu vas continuer à vivre cette souffrance pendant 10, 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans, parce que on estime que la loi ne permet pas à ce qu'on abrège tes souffrances. Et moi, j'estime qu'à ce moment-là, c'est extrêmement égoïste, voire que c'est une anomalie de l'histoire que la France puisse pas permettre à cette personne-là d'abréger ses souffrances. Mais c'est pas ridicule.
Mais c'est le final.
Moi, je trouve que c'est.
On
est extrêmement bien assis dans un studio ouaté du 16e arrondissement. On dit à des gens de continuer leur vie juste par dogme et par dogme religieux en disant Dieu nous a donné la vie.
Comme de Bréval.
Sur la question de la liberté, précisément, c'est quelque chose de très important, effectivement, de respecter la liberté. Et heureusement que nos institutions sont garantes de ça. Mais quand il y a une détresse psychologique, quand il y a une perte de contrôle personnel, c'est justement le rôle de la société et de l'État de prendre le relais et de s'occuper de ça. C'est pour ça que les questions psychiatriques sont prises en compte par le droit et la justice. C'est aussi pour ça que le suicide est interdit en France. Pardon. Bon, personne n'a jamais été condamné pour ça, mais en tout cas, je crois qu'il est interdit par le droit français.
Oui.
Et parce que effectivement, on considère que quand on en arrive à cet extrême-là, ça veut dire qu'on n'a plus la lucidité nécessaire et que c'est à la société de prendre cette responsabilité-là et de prendre le relais.
Edouard, peut-être en un mot avant de donner les armes,
oui,
peut-être un échange.
Je vois pas du tout le rapport avec mes arguments à moi. Moi, j'essaie juste de dire
que... sur la liberté, peut-être.
Bah, la liberté. En quoi on peut contraindre à une liberté à quelqu'un qui dit qu'il veut mourir et que ça a été prouvé, entre guillemets, scientifiquement que... En vrai, vous allez me dire que oui, mais on peut pas dire qu'une vie est indigne d'être vécue. Moi, je pense vraiment qu'il y a des vies qui sont plus, il y a des vies qui sont plus dignes d'être vécues. Et qu'on, en fait, aujourd'hui, on peut pas... De notre vie de jeunes hommes de 19 ans à 30 ans, on peut pas estimer qu'une vie est indigne d'être vécue parce qu'on n'a jamais vécu cette vie-là. Et que une personne qui a la maladie de Charcot depuis 6 mois, qui ne veut pas se voir dépérir, qui ne veut pas se voir vivre une descente aux enfers, elle a le droit d'estimer que le dernier au revoir qu'elle veut administrer à sa famille, c'est un au revoir digne où elle peut encore parler, elle peut encore sourire, elle peut encore avoir une conversation, elle peut encore rire avec ces personnes-là. Et moi, j'estime que justement, c'est une anomalie d'histoire qu'aujourd'hui, la France n'est pas autorisée. Attendez, laissez-moi si bien.
Attendez, ça fait 10 minutes. Donc
non, mais attendez,
finissez rapidement.
Non, n'est pas autorisée à suicide assistée. Et je connais les arguments des anti-euthanasies.
Laissez-les
s'exprimer.
Il y en aura des milliers par an, c'est pas vrai. Aujourd'hui, la loi qui va être promulguée, c'est une loi très restrictrice.
Pas du tout.
N'importe, c'est ridicule.
Tout ce que vous dites, pardon. Etienne d'Argent, allez-y, après, quelqu'un, je vous donne la parole.
Oui. Vous n'avez pas eu les textes.
Vous n'avez pas eu le livre.
Bah oui,
vous avez lu vous.
Bah évidemment, moi, c'est le combat de ma vie.
Vous savez qui le porte?
Oui, bah Olivier Falorni, évidemment, je sais qui c'est. Ça fait 15 ans qu'il la porte.
Moi, je crois, Edouard, que vous avez une erreur d'analyse assez totale. En fait, et en sortant un peu du côté béni oui-oui, la dignité de la vie...
Bah, béni oui-oui,
laissez-moi finir.
Je vous laisse
justement
finir.
Je vais être très pragmatique. Sortons un peu des arguments sacrés de la vie, de la civilisation. Je vais vous répondre très cash. Votre type qui a une maladie de Charcot, qui souffre horriblement, qui veut partir dignement. Personne n'en empêche. Il peut parfaitement le faire, il peut parfaitement demander à ses amis de l'aider, il peut demander à ses parents de l'aider, peu importe. Ça a toujours existé, on peut dire que c'est pas bien, c'est pas machin, ça a toujours existé, ça existera toujours. La différence fondamentale, et c'est là votre erreur d'interprétation, c'est que ça n'est pas à l'État de le faire et que ça n'est pas au médecin de le faire. C'est ça la grande différence. Monsieur a envie de se sauter d'une falaise ou a envie de demander à sa femme de l'étouffer avec un oreiller, il en a parfaitement le droit. On en pense ce qu'on veut moralement, mais il en a parfaitement le droit et la capacité.
Pourquoi c'est pas l'État de le faire?
Parce que c'est pas l'État de tuer les gens.
Bah pourquoi la peine de mort est autorisée jusqu'en 1980?
Elle n'est plus déjà et ensuite la peine de mort,
d'accord,
c'est pour les coupables,
dans ce cas-là,
si vous voulez, c'est pour les criminels, d'accord.
D'accord, mais dans ce cas-là, si l'État ne tue pas pour une peine, et dans ce cas-là, l'État n'a pas.
C'est les médecins qui tuent.
Mais non, mais vous avez pas dit les médecins, vous avez dit l'État.
J'ai dit l'État et les médecins d'abord.
Mais c'est pas la même chose.
Mais c'est les deux.
Déjà, vous contredisez. L'État a tué jusqu'à encore 35 ans. Et là, vous me dites l'État n'a pas à tuer.
L'État n'a pas à dire aux médecins de tuer.
Non, vous avez pas dit ça.
Si, c'est exactement ce que j'ai dit.
Non, vous avez dit l'État n'a pas à tuer.
D'accord, vous les finissez. Puis Alexandre Galzin, il bouille sur la chaise.
Je vois ce que vous voulez dire, mais que si une personne qui se jette, pardon, des falaises de trop tard, elle sait qu'elle a des chances de ne pas mourir proprement et de s'ouvrir jusqu'à la fin de ses jours. Là, c'est l'État qui permet justement à ce qu'une personne puisse mourir dans la dignité la plus absolue.
Mais d'abréger ses souffrances. Dignité, c'est grotesque.
Mais moi j'ai connu des personnes proches qui ne voulaient plus vivre parce que la souffrance était même pas, c'était indicible, c'était innommable. On n'est même pas capable de conceptualiser cette souffrance là. Et moi je me mets à la place de ces personnes là et je me dis mais j'aurais sûrement la même chose qu'elle en me disant que la vie devient une sorte de calvaire. Mais je vous jure, on vous entend
85%
des Français sont d'accord.
Déjà, sur les sondages, si la démocratie c'était bien, ça se saurait. Deuxième point.
Vous êtes démocrate, vous inventez pas une.
Moi, non.
Oui, vas-y.
Alors là, vous me connaissez mal. Deuxième point.
Dieu m'en garde. Allez-y.
Non mais je veux dire pour le. Pour
non, attends, arrêtez, c'est pas okay,
parler. Je le connais.
Deuxième point, sur la question de la liberté. En fait, ce qui est absolument ridicule, c'est que si par exemple, Edouard Lavolée, vous avez votre petite copine que nous connaissons tous ici qui décide de se tailler les veines ou de se faire du mal, de façon de se suicider, vous allez évidemment pas laisser la faire parce qu'en fait, la liberté, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas absolu. Et d'ailleurs, qui est libre, à quel point on est libre, etc. Là, attendez. Ça, c'est un premier point, c'est-à-dire que la liberté, quelque part, ça ne veut rien dire, parce que la liberté, de toute façon, on est toujours soumis à des autorités, on est toujours soumis à des influences, etc. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur la question de la dignité. En fait, sur la souffrance, l'argument ne tient pas, parce qu'il existe un truc qui est assez génial, ça s'appelle la sédation profonde. Et la sédation profonde, c'est quelque chose qui est prévu par la loi Leonotti de 2014 ou 2016, je ne sais plus. Voilà. Et cette loi Leonotti, justement, permet d'éviter toute souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ça vous plonge dans un état.
C'est pas vrai. Ah, attendez, chacun son tour.
Bien sûr que si. Ça vous plonge dans un état de sédation profonde dans lequel, effectivement, vous ne ressentez plus rien et vous arrivez jusqu'à, au bout d'un moment, la mort naturelle. Et ensuite, le dernier point, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, là, on a des personnes qui, justement, vous êtes comme Raphaël Enthoven et bien d'autres qui expliquaient que l'idée, c'est de pouvoir avoir le contrôle absolu sur la vie, comme sur la mort, comme sur absolument tout. Sauf qu'en fait, encore une fois, qui est libre de quoi? Et si vous voulez, d'une certaine façon, moi, ce que j'aime bien, c'est entendre Raphaël Enthoven ou des gens comme vous, justement, expliquer que, voilà, il faut expliquer à telle personne comment voter parce que c'est voter pour les extrêmes, comme vous le dites si souvent, c'est un piège. Vous expliquez que, en fait, si vous voulez, il y a toujours, effectivement, il faut protéger la République contre les errances du peuple, etc. Et puis, quand on se retrouve effectivement face à une volonté individuelle, vous dites non, mais effectivement, il faut la laisser s'épanouir parfaitement parce que, en fait, on serait des êtres immanents qui existent en dehors de toute influence, de toute liberté. En fait, si vous voulez, il y a déjà 10 manières de ne pas être libre. Et enfin, pour finir, je pense que le sujet auquel il faut s'attaquer à l'origine, c'est le sujet de pourquoi est-ce qu'une personne qui est vieille ou qui est dans un état de souffrance, en fait, a envie de se suicider, parce que c'est le terme, eh bien, en fait, c'est en partie aussi parce qu'elle est abandonnée, parce qu'en fait, cette personne n'a pas d'entourage, n'a pas de personne qui l'aime, voit sa famille deux fois par an, qui la laisse passer, etc.
Edouard Lavolée, si vous voulez peut-être répondre, et Claude de Bréval et d'Argiac.
Pour la loi Claes-Néotide de 2016, c'est pas vrai. Elle abroge pas toutes les souffrances, elle apaise pas, toutes les souffrances. Il y a beaucoup de... Non, mais si, c'est vrai. Excusez-moi, la maladie de Charcot n'est pas abrogée par une sédation profonde. C'est pas vrai. Elle n'est pas apaisée par une sédation profonde. Et après, vous dites que, il y a des personnes qui sont abandonnées, mais, en fait, la loi aujourd'hui qui devrait être promulguée d'ici 15 jours, les personnes abandonnées seules, elles ne rentrent pas dans le cadre de cette loi.
Bien sûr que si, tout le monde rentre dans le cadre de cette loi.
Pas du tout. Vous avez pas lu les textes. Et...
C'est ridicule ce que vous dites.
En fait, pour vous, il y aurait combien de d'euthanasie, enfin de suicide
d'ici par an? Si on prend la proportion qui est la même qu'en Belgique ou aux Pays-Bas, on serait à 50 ou 60 000 d'euthanasie par an.
Mais non, parce qu'au Pays, ça veut dire bien qu'au Belgique et aux Pays-Bas, parce qu'il y a des Français qui vont.
C'est la loi française est plus permissive que la loi des Pays-Bas.
Pas du tout, il y en aurait quelques centaines par an. Et ça finit
à 13 ans à se faire euthanasier.
Oui.
Mais c'est pas vrai.
Bah, par exemple, cette jeune femme qui s'était fait violer par un migrant justement en Espagne. Oui. Et il y a un an, voilà.
Il y a 6 mois d'ailleurs,
une femme qui se fait violer en Espagne et justement qui se fait euthanasier parce que ses souffrances sont trop fortes. En fait,
ça rentrerait dans le cadre des lois françaises.
C'est la faillite absolue de l'État du début à la fin et j'ai envie de dire de la naissance à la mort.
Là, c'est des arguments.
Là, vous promouvez.
C'est des arguments fallacieux. C'est ce qu'on appelle des sophismes.
Non, vous essayez d'entraver
la liberté individuelle.
Vous êtes un clown.
Pas en même temps. Ne vous demandez pas de le faire.
Attendez, j'ai une question à vous poser, Edouard Lavolée.
Ce que je veux dire, c'est que l'État français devrait permettre à une personne qui vit une vie qui est objectivement insupportable.
Devrait demander à un médecin de piquer pour pouvoir le suicider.
Parce que vous l'avez pas vécu.
Comme le disait Raphaël Enthoven.
La maladie de Charcot, c'est pas insupportable. La maladie de Charcot, c'est pas insupportable psychiquement. Vous êtes taré en fait.
Mais il y a la situation profonde pour ça en fait. Ça sert à ça.
Non, c'est pas une solution.
Ça
agence le problème. C'est pas un problème, ça règle pas le problème.
Justement, ça en fait. Le principe en fait, si vous voulez,
c'est tomber dans le coma.
Voilà. Oui, d'accord. Mais
dans le coma, on arrête de mourir.
Stop, pas en même temps. Edouard Lavolée, finissez votre propos.
Il a fait le bien,
dites des trucs intelligents, s'il vous plaît.
Il le dit, et ça le touche personnellement.
Vous ôtez le droit à des personnes qui veulent juste.
Mais on n'ôte rien, ça n'existe pas comme droit. Ça n'existe pas comme droit. On n'ôte rien comme droit.
Non, vivre un calvaire. Mais mettez-vous dans la tête que c'est possible que des gens vivent la vie comme un calvaire parce qu'elles vivent une maladie qui est incurable, insupportable. Physiquement, nous, on n'a pas connu la souffrance physique qui, du matin au soir, nous prend, nous saisit, nous agrippe et nous étouffe. Et on peut pas juger pour une personne qui a 70 ans, 80 ans, à l'aube, enfin, au crépuscule, pardon, de sa vie, qu'on doit lui obliger de poursuivre cette vie-là. Et moi, personne je pense
n'oblige.
Vraiment qu'aujourd'hui, c'est extrêmement égoïste.
On n'oblige rien.
Et c'est une anomalie de l'histoire que la France n'ait pas autorisé l'euthanasie.
Étienne Darjac, attendez. Étienne Darjac, comme de Bréval.
Vous verrez qu'il y a
attendez, dans la volée, on vous laisse parler, donc laissez parler les gens. Étienne Darjac, dit Chum de Bréval.
Bon, la première chose, c'est...
Je vais me lever là, déjà, si... je vais t'en mettre une.
La première chose, c'est, évidemment, même si on comprend votre émotion, Edouard, je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à avoir vu des gens mourir de maladies plus ou moins graves. Tout le monde l'a fait, je pense que tout le monde ici a perdu au moins un grand-parent, c'est à peu près de la génération dans laquelle on est. En ce qui me concerne, j'en ai perdu 4, donc je peux vous en parler. Vous n'êtes pas le seul à avoir vu ce genre de choses, okay ?
Bien sûr, et je vous l'accorde.
Non, mais parce que c'est essentiellement votre argument, donc
non,
c'est du pathos.
Sûr.
C'est du pathos.
Mais
évidemment,
Edouard,
vous avez raison.
Ensuite, Alexandre a commencé à le dire, on n'enlève aucun droit à personne. Et c'est ce que je disais dans mon propos introductif.
Aujourd'hui,
si
c'est
les gens veulent mettre fin à leur souffrance, encore une fois, ils le peuvent.
Si. Parce que la peine de mort, c'est un crime aussi.
Mais aujourd'hui, c'est un crime de tuer une personne.
Stop, on va arrêter.
Aujourd'hui, oui.
Etienne, puis tu vas finir là-dessus sur ce sujet-là. Et on va passer à un autre sujet après. Allez-y, Etienne.
La dernière chose, c'est que vous avez l'air, je trouve cette manière de dire, c'est une anomalie de l'histoire que la France soit en retard. C'est grotesque. Pourquoi est-ce que la France devrait être en avance sur tout le monde, devrait prendre ses décisions avant tout le monde?
Elle est en retard.
Non,
il y a 5-6 pays.
Elle est en retard sur
5-6 pays. La Suisse,
qui sont
les Pays-Bas,
tous des bastions
la Belgique,
ultra progressistes,
le Canada.
Dans tous ces pays, il y a eu des dérives très graves.
On se reparlera dans 50 ans et vous verrez que ça sera.
Oui, d'accord,
mais aujourd'hui.
Peut-être qu'il y aura dans 50 ans, il y aura aussi la GPA.
Mais parlez pas de retard alors, parlez pas de retard, c'est malhonnête.
On est censé être en avance sur les droits de l'homme sur beaucoup de pays.
Comme de Bréval, est-ce que la France est un phare quand elle autorise l'euthanasie ?
Bah non, justement, et je vais rejoindre l'argument d'Étienne qui est que depuis des millénaires, l'euthanasie est possible. Et contrairement à la GPA, la PMA, ça correspond pas à un progrès très récent, et qu'il y a une raison pour laquelle depuis des millénaires on ne l'a jamais fait, et on l'a fait, enfin ça existait, on tuait l'ennemi qui était à moitié mort sur le champ de bataille, ou éventuellement sur des lits, dans un cadre privé, mais c'était jamais l'État qui l'encadrait, et le fait que ça arrive aujourd'hui est forcément, d'une manière ou d'une autre, en tout cas la suspicion existe, liée à une idéologie perverse qui nous pousse à nous y opposer.
Et donc, peut-être pour finir, pour donner la parole à celui qui est ce soir minoritaire.
Non, mais je suis pas minoritaire.
Ça, je suis majoritaire dans l'opinion.
C'est minoritaire ici.
Ce
que je veux dire, c'est dans les courants religieux catholiques, musulmans, si 85% des Français sont pour, c'est-à-dire que même dans les courants religieux, les gens sont pour. Donc c'est vraiment.
Non, déjà, les chiffres sont pas bons déjà.
Mais arrêtez.
Vous avez noté que personne ici n'a utilisé d'arguments religieux.
Non. Personne.
Il y a eu un peu d'arguments religieux.
Personne.
Vous mentez encore.
Je sais très bien.
Pardon, Edouard.
Je sais très bien.
C'est
un public.
Edouard, être d'accord avec la majorité des gens, c'est pas une médaille. Hein.
Je suis pas en train de dire que c'est une médaille.
C'est
juste que ça parle à la majorité des gens.
Mais
on peut pas s'en fiche.
Je dis pas ça comme argument autoritaire.
Et vous aimez le football, les Millions de Paris, c'est la Coupe du Monde de foot.
Je vous donne un contre-exemple, Edouard.
Allez,
vous avez raison, quand on a commencé à parler de l'euthanasie, donc il y a deux ou trois ans maintenant.
Ça fait longtemps,
on a parlé de ce projet
de loi qui est passé.
Effectivement, les sondages d'opinion étaient d'une façon écrasante très en faveur de l'euthanasie. Parce qu'en réalité, les gens ne savaient pas de quoi en parler. Aujourd'hui, après 3 ans de débat, après énormément de discussions parlementaires, si vous regardez les enquêtes d'opinion, elles sont plus du tout pareilles. Et le taux d'adhésion est passé de quelque chose comme 90% à 60%. C'est également valable au Parlement, où il y a de moins en moins de parlementaires qui ont voté en faveur du texte. Ça passera quand même, tant mieux pour vous, j'imagine.
Non, c'est pas fait, tant que c'est pas fait, je vous dis.
Non, mais oui, c'est pas fait.
On va finir, je vais clôturer là-dessus.
Je termine là-dessus.
Vous avez terminé ?
Je termine là-dessus. Juste
rapidement alors.
Très rapidement, c'est
ça. Merci beaucoup, Chatienne.
Plus on se penche sur la réalité de ce sujet, plus on creuse sur les intentions des gens qui portent ces lois, moins, et c'est normal et c'est une bonne chose, les gens y sont favorables parce que ce projet de loi est sordide.
Voilà. Juste pour conclure, évidemment, chers amis auditeurs, je vous invite à vous mobiliser justement contre cette loi. Rien n'est fait. Alors, Étienne Darjac, nous sommes souvent d'accord, mais en l'occurrence, rien n'est fait.
Je suis un éternel pessimiste.
Non, mais écoutez, il faut.
Les espoirs politiques, ils ne sont disent absolus.
Comme disait Charles Maurras. Ah, et puis, un autre ami disait qu'il fallait être pessimiste actif et donc. Être en permanence dans l'action.
Il peut pas me faire son reproche.
Je suis bien d'accord. En tout cas, chers amis, il est encore temps de s'engager et de soutenir cette cause-là, d'alerter vos députés. En effet, Étienne Darjac l'a rappelé, le nombre de parlementaires favorables à l'euthanasie est en train fortement de reculer parce que, justement, il n'y a pas de retour en arrière possible dans le cas de cette loi et qu'il faut évidemment justement préserver la vie ou en tout cas préserver le débat, c'est ce que nous faisons ce soir.
Il y en a 32 à convaincre.
Il y en a 32 à convaincre, il faut aller chercher. Et vous savez, quand on vient d'en bas, quand on peut prendre, on prend. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse et nous l'avons retrouvé. Merci Edouard Lavolée, c'est vous qui l'avez retrouvé. Donc comme quoi,
merci
vous n'êtes pas.
Merci à la régie surtout.
C'est moi. J'essayais de sauver. Pardon. On dit évidemment. Je présente mes excuses à la régie, mais c'était pour essayer de sauver le pauvre Edouard qui a raconté n'importe quoi depuis tout à l'heure.
Oui, mais je jouais un rôle.
Courtoisie@rc.fr. Vous pouvez nous envoyer un courriel que nous lirons avec plaisir pour ces 20 dernières minutes d'émission. Et comme nous le faisions lorsque nous étions lycéens au collège. Et ben on va parler de nos vacances. Alors, vous avez fait un bruit de bouche un peu étrange, Étienne, mais et donc vous avez donné le droit d'expliquer ce que vous allez faire pendant les vacances estivales qui arrivent d'ici, toi. Quand est-ce que vous partez en vacances? Alors, première question, tenez, quand est-ce que vous partez en vacances?
Non, dans une semaine.
Ah, excellent, mais quand est-ce que vous venez du coup mi-août
Bah, j'ai un employeur qui me demande de rentrer assez tôt parce que la boîte tourne très bien en ce moment, donc il faut rentrer tôt.
Il est très exigeant, non?
Oui, bah après c'est ça qui permet la performance. Hein, donc,
ouais, mais vous m'aviez parlé de maltraitance au travail, peut-être vous voulez en dire.
Alors,
un mot,
on va peut-être parler des vacances.
Oui, pardon.
Alors, Étienne Arjac, quand est-ce que vous partez en vacances?
Je vais partir deux fois. La première fois, c'est ce soir, figurez-vous.
Bah, dis donc.
Voilà, et je prends une semaine.
Vous allez à Narbonne ce week-end?
Non, malheureusement, je ne peux pas me rendre à Narbonne ce week-end. Donc, je prends une première semaine là, la semaine qui vient, et deux semaines en août ensuite.
Excellent. Ah, vous prenez une semaine là?
Oui, tout à fait.
Ah, mais où ça?
Je vais d'abord à Tours, si vous voulez tout savoir, et puis je rentre chez moi dans le Berry.
Ah, excellent. Dans votre vous pouvez nous parler peut-être un peu du Berry en quelques mots?
Ah, oui, je pourrais vous en parler très longuement.
Non, pas tant, mais allez.
Bon, très bien. Alors, le Berry, j'allais vous dire, ça gagne à être connu. Non, en fait, c'est pas très connu. Personne ne sait ce que c'est, et c'est très bien comme ça, parce que le plus grand avantage du Berry, c'est qu'on a la paix.
Ah, et amen. Où êtes-vous dans le Berry?
À Bourges.
Ah oui, donc vous êtes comme dans Bourges. Une ville.
Ah oui, bien sûr.
On appelle les habitants de Bourges très sérieusement.
Les Berruyers.
Les comment?
Berruyers.
Ah oui, tiens, c'est original.
Ah bah oui, ça c'est, oui, c'est original. Ça aurait pu s'appeler bourgeois, ça aurait été plus simple pour tout le monde.
Non, mais c'est assez unique.
Oui, c'est un gentilé assez charmant. Je trouve ça, oui. Ça ne manque pas
et
de charme.
À propos de gentilé, il y en a qui est dans le
Pour faire la liaison Berry-Mayenne, étant moi-même à la jonction, ayant aussi des racines berrichonnes, c'est ce qui m'a incité à donner la parole à Étienne en premier. Je donne la parole.
Il y a une mafia berrichonne.
À l'autre mafia, savoir, après la mafia berrichonne, la mafia
mayonnaise. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, effectivement, évidemment que je retournerai en Mayenne durant cet été. J'ai des vacances qui, a priori, dureront du 24 juillet au 24 août, sauf si. Quelconque façon, voilà, mais...
Vous devez revenir en cas d'urgence,
exactement,
s'il y a des actualités.
C'est ce que je voulais dire, mais effectivement, donc, un mois de vacances dans lequel je reviendrai évidemment en Mayenne, à Laval, à Argentrée, dans ces petites bourgades, finalement, qui sont tout aussi charmantes, qui ont le double avantage d'être méconnues et pas très loin de Paris. Et puis, à côté de ça, écoutez, ben, je vais pas seulement aller dans ce coin-là, j'ai prévu de visiter un nouveau département, avec ma famille dont j'ignore tout.
Le Var à Saint-Tropez.
Alors, ça c'est vrai, mais je y reviendrai plus tard. Non, mais le Cantal déjà. Le Cantal en famille, ouais. Je n'ai jamais été dans le Cantal. Et écoutez, on m'en a dit que du
où
bien.
Allez-vous dans le Cantal?
Je suis pas sûr, mais déjà dans le Cantal, cela dit.
Eh bien écoutez, je vais non loin d'Aurillac. Enfin, après, évidemment, à 40 minutes, tout est pas très loin et très loin d'Aurillac à la fois, mais ouais, 40
et
minutes.
Tout est toujours très loin dans le Cantal.
Voilà, exactement. Ouais, effectivement, je serai non loin d'Aurillac, effectivement, pour visiter ce charmant département dont on m'a dit énormément de bien. À côté de ça, écoutez, effectivement, vous m'avez devancé, Stanislas. Je prévois d'aller pour la première fois de ma vie dans le coin de Saint-Tropez pour voir un petit peu ce que c'est, bah, justement, alors, ce que vous connaissez très bien, Stanislas, étant donné que vous êtes candidat, vous avez été candidat à Saint-Tropez, il me semble.
Ah non,
si, vous êtes candidat, je crois, dans dans ce coin extrêmement.
Ah non,
c'est extrêmement riche et bourgeois.
Alors, ça commence par la même chose. Il y a quelques numéros communs, mais.
Non, vous étiez dans le Luberon, je le sais bien. Mais effectivement, j'ai hâte.
En géographie, c'est une catastrophe. Hein.
Non, mais j'ai hâte de voir un petit peu à quoi ça ressemble, Saint-Tropez. On m'a dit que. Effectivement, c'était un coin tout à fait charmant. J'irai plus précisément à Cogolin rejoindre un ami commun que vous connaissez. Et enfin, dernière vacances que j'ai prévues, j'irai avec Édouard Lavolée en Sardaigne.
Transition parfaite.
Voilà, exactement.
Si
nous avons des projets hautement culturels en Sardaigne, mais peut-être que Édouard voudra nous en parler de ses projets culturels.
On va aller à Cagliari, donc la capitale de la Sardaigne, voir à la fois le patrimoine culturel, architectural et humain de cette charmante ville, avec une certaine Paolina qui nous attend, et aussi les belles plages. Moi, de mon côté, après, j'irai certainement en Bretagne, en Vendée, peut-être au Maroc, mais c'est pas sûr. Et je vais en Grèce.
Vous êtes un homme qui vit dans les aéroports.
Ouais, dans les aéroports, voilà. Comme dirait l'autre, comme dirait un certain Eric Tegner, voilà, je vis dans les aéroports. J'irai en Grèce en septembre, donc, voilà, je suis.
D'accord. Alors, donc, le bilan carbone, c'est une catastrophe. L'enracinement, c'est une catastrophe.
Et je suis assez nomade.
Vous devriez avoir honte, monsieur Lavolée.
Oui, bah, j'ai honte de ce que je suis, évidemment, et c'est pour ça que je vais me faire euthanasier d'ici là. La fin du mois.
Bah, en fait,
je suis cohérent avec moi-même, monsieur.
Enfin, une bonne nouvelle.
Monsieur Darjac.
Chaume de Bréval, vos vacances. Qui commence par une très bonne nouvelle.
Oui, oui, effectivement, j'ai un mariage d'un membre de ma famille, et puis ensuite un camp scout, et j'en profite pour faire un mini coup de gueule sur les camps scouts. On a trouvé un premier lieu où on voulait faire du feu, et le maire nous a explicitement interdit de faire du feu.
Ah, ça suffit, cette solution.
Un petit maire socialiste breton qui veut nous empêcher de vivre. On a changé de lieu pour aller autre part en Bretagne, et à nouveau, le maire nous a envoyé un recommandé. Alors, parce qu'il s'est pas utilisé d'ordinateur, donc c'est des manuscrits que sa secrétaire se charge de scanner pour envoyer par mail, pour nous redire. Que le feu est interdit en Bretagne.
Alors comment on peut vous aider là-dessus peut-être, si vous pouvez pas faire de feu?
Écoutez, si vous habitez dans le nord du Morbihan et que vous voulez nous aider, n'hésitez pas. Si vous connaissez des maires là-bas, ou des responsables de communautés de communes, ou même le sous-préfet, je ne sais pas. Mais si vous voulez nous aider, on sera...
Vous avez une troupe de scouts qui ne demande qu'à camper et à profiter de la joie d'être scout au mois de juillet, c'est donc ça?
C'est donc ça, oui. On part dans une semaine, un peu plus. Mmh. Et donc, nous sommes interdits de faire du feu à nouveau.
Donc, voilà. Et donc, pour l'instant, comment ça se passe? Alors, question pour les auditeurs de Radio Fourtoisie qui ont été scouts peut-être par le passé, mais comment fait-on un camp scout sans feu?
Alors, pour le coup, ça se généralise de plus en plus avec les interdictions de feux de forêt un peu partout en France, liées au réchauffement climatique et au changement climatique.
On interdit les feux de forêt, c'est honteux, hein. Pardon, mais je suis désolé, mais c'est de la manière. C'est, on tue les chats et on interdit les feux de forêt.
Attendez.
D'ailleurs, Gina, est-ce que...
on tue les vieux...
Attendez, stop. Deux secondes,
les vieux, les chats.
Attendez.
Il manquerait plus qu'on tue les...
Attendez.
Les feux pour cuisiner. Mais, et donc, effectivement, nous, déjà l'année dernière, on a fait des buts à gaz. Alors, ça a beaucoup moins de charme. Tant au moment où on
c'est
cuisine...
Horrible.
C'est horrible. C'est atroce. Mais alors, figurez-vous qu'à un moment donné, on n'avait même plus le droit d'être en forêt. Donc, on était des délinquants qui étions en forêt juste...
Vous n'aviez pas le droit d'être en forêt?
Non.
Ah, expliquez-nous pourquoi aussi.
Bah, à cause d'une période inédite de sécheresse, de canicule et plus ou moins de feux de forêt dans les environs. Donc on était...
Attendez, parce que j'ai une question au moins. L'interdiction...
Vous êtes sûr d'être scout déjà?
L'interdiction de faire du feu, c'est parce que vous aviez l'intention de camper sur un terrain communal? Parce que si vous êtes sur un terrain privé, on fait ce que vous voulez.
Non, il faut l'autorisation du préfet et du maire.
Du préfet?
Oui.
Mais après, c'est ceux qui dirigent les départements.
Alice Nard l'a dit dans son bouquin, hein, c'est la bureaucratie. C'est le mille-feuille administratif. Non, mais c'est vrai.
Et pour le coup, ça
on en reparlera dans la prochaine émission.
Mais le préfet, pour le coup, est vraiment compétent pour décider si on aura du feu. Mais le maire, qui gère rien contre les personnes qui ne savent pas gérer un ordinateur, mais quand on ne sait même pas gérer un ordinateur, comment on peut décider du principe de précaution pour des jeunes qui ne demandent qu'à prendre la vie? Et c'est vraiment supportable.
Et donc, vous aurez
un
camp scout donc en Bretagne, dans le Nord-Morbihan, si on peut vous aider. Amis auditeurs, évidemment, n'hésitez pas à aider le Chaume de Bréval. Et puis, vous avez, j'imagine, une suite de vacances.
Oui, après, en Bretagne, dans le Morbihan aussi, d'ailleurs, j'y retourne. En Savoie et en Essonne.
En Essonne,
oui, c'est un charmant département.
Qu'est-ce que vous faites en Essonne et en Savoie?
À Notre-Dame-de-Louis, à Acteurs d'Avenir.
À quoi?
Ah, elle sort. Vous avez perdu à Paris.
Acteurs d'Avenir, oui, bien sûr.
Qui m'a coûté cher, le Paris. C'est une université d'été pour...
C'est qui cette année? C'est Michel Barnier, c'est François Bayrou.
L'ancien gouverneur de la Banque de France, monsieur Louis Leroy de Gallo.
À propos de ces dons, vous vouliez pas terminer par une sorte de, vous le nommiez par un terme affreusement anglais, mais de photocall?
Avec tous ces débats.
Et en fait, on dirait un mot, on se retient à un seul mot sur une personne.
Jean-Marc Morandini.
Dans quart d'heure, il reste 10 minutes, mais on va le faire un peu spécial présidentiel.
Allez.
Éric Zemmour. Alexandre Delzin.
Wow.
Une question ou un mot?
Intellectuel.
Edouard Révolé.
Prophète.
Étienne Darjac. Ou une question?
Sincère.
Égaré.
Utile.
Si je vous dis Marine Tondelier.
Grotesque.
Je pensais à grossesse et du coup. Comme
Puéril.
Fausse candidate.
Moche? Non, je regarde. Non, isolé. Mais horrible. Dégueulasse? Non, je
T'es toujours obligé.
Vous êtes pas bien
toujours lui.
Moche. Alors attends, allez. Et Marine Le Pen?
Phoenix.
Présidente.
Très bon papier du Figaro là-dessus.
Oui, tout à fait. Courageuse.
De Paul Lebache.
Invincible.
Espoir.
Oh, attendez ça.
Moi je serais curieux de savoir. Edouard Philippe.
Jeanne d'Arc.
Edouard Philippe.
Ah, Edouard Philippe, Alexandre Delzin.
Boomer.
Oui.
Raisonnable.
Ça ça va pas dire ça.
Non, mais c'est le candidat raisonnable pour la majorité des Français. Je pense qu'il va être élu.
C'est Attal le candidat raisonnable.
Et monsieur Lavolée fait une fixation sur la majorité des Français.
Oui, arrêtez.
C'est moi de comprendre le peuple.
Vous
comprenez le peuple, vous lisez les sondages bidons.
Vous êtes le plus parisien de tous.
En fait, je suis prêt d'habit depuis le début. Et je vous ai pas dit.
Non, attendez, vous êtes le plus parisien.
J'ai vécu deux mois en Corrèze, vous êtes malade, monsieur Rigaud.
Où êtes-vous né, Edouard Lavolée?
Bon, je suis né dans le 14e, certes, voilà, allez, mais
est-ce que vous avez grandi ailleurs qu'à Paris,
j'ai
à part
vécu,
à Madrid.
J'ai vécu un an et demi à Madrid, et j'ai vécu un an et demi dans le 20e. Non, donc oui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup vécu hors de Paris. Mais sachez,
voilà, monsieur Lavolée connaît le peuple parce qu'il a eu les sondages de ses amis journalistes et puissants.
Non, mais là c'est
du Lavolée personnel.
C'est facile.
Et Jean-Luc Mélenchon, Étienne Darjac.
Ennemi de la France.
Cynique.
Cynique ou sénile?
Cynique et pas sénile. Hein.
Incompétent.
Ouais, je reviendrai un peu à Étienne Darjac, mais danger, quoi. C'est.
Et si
certainement pas un trident, en tout cas.
Ah non. Ah ben moi, je crois que j'en profite à. Je profite de l'antenne que Radio Courtoisie m'offre. Je crois qu'il faut démystifier Jean-Luc Mélenchon et arrêter de faire semblant que le type est plus brillant que tous. En réalité, je vais vous dire un truc, et ça va vous convaincre, Alexandre Galzin. En réalité, vraiment, c'est l'adage parfait, c'est vraiment au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Oui, il est ça. Au milieu de nains politiques qui sont Marine Tondelier, Olivier Faure, etc. On le prend pour un génie, dès qu'il s'est frotté à Costaud, en réalité, il s'est fait gifler.
Qui Costaud?
François Hollande.
Costaud?
François Hollande.
Ah non, Cotarac. C'est qui François Hollande? Quand ça, il s'est brossé à François Hollande?
Non, mais bon.
Oui, à l'élection. Tu parles pas pendant des débats. Mais à l'époque, c'était un nain politique. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il venait de se quitter le PS il y a quelques années.
Bon, Alexandre Galzin.
Sur
Sur François Hollande, tiens.
Ah, sur François Hollande. Danger, mais pour Mélenchon. Menace, oui.
C'est ce que je vous dis.
Oui, oui.
Sur François Hollande?
Fan, non, c'est ce que je veux dire.
Non, amusé, je suis amusé.
Et si on sort un peu du côté, si je vous dis par exemple Guillaume Play, non, sur des présentateurs. Bon, moi, je trouve que l'un des présentateurs de l'année, objectivement.
On peut parler, d'un des présentateurs de l'année qui a une actualité récemment.
Non, mais attendez. L'un des présentateurs de l'année, honnêtement, je trouve que Benjamin Duhamel a été absolument incroyable cette année à la tête de la matinale d'RTL, de France Inter.
C'est vrai, c'est vrai.
Bah, il était très bon, mais on en a moins entendu parler que
déjà. Mais justement, et il a fait un grand bruit en arrivant, ça a un peu bougé, et je trouve que là où il a été le séance, c'est de rester. À sa place dans sa matinale en faisant de très bons interviews. Je trouve que Benjamin Duhamel a été
ça a toujours été un très bon intervieweur.
Oh, il non,
malheureusement il paye le fait d'être de la famille de la
bon, il paye
il a les dividendes qu'il utilise bien.
Ce que je veux dire, c'est qu'il paye dans
le sur, oui pardon ça le paye
on le dit bon, non mais d'accord, mais bon, d'un côté il a fait ses preuves aussi. Alors oui, évidemment il aurait pas grandi dans un bain culturel intellectuel s'il n'avait pas fait partie de cette famille aussi, mais il a fallu qu'il fasse ses preuves. Donc Tout est hybride et tout est relié, c'est-à-dire que non mais
tout est lié, ça c'est
tout est lié dans le sens où il y a le côté déterminisme de classe, mais aussi le côté méritocratie qui est lié. Et évidemment que un Benjamin Duhamel n'a pas volé sa place aujourd'hui et n'a pas usurpé sa place, et qu'aujourd'hui il fait partie des 2-3 meilleurs intervieweurs politiques et qu'il a créé de certains moments de vérité entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, sur le au micro de France Inter. Et pour revenir à Guillaume Play, oui, je serais un peu plus.
On va surtout parler des livres. Guillaume Play, c'est le premier podcast de France.
Oui, mais Guillaume Play, on peut lui donner un crédit, c'est qu'il arrive à voir tout le monde sur son.
Ah, mais c'est le meilleur.
C'est le meilleur, en tout cas, au niveau. Après, on peut critiquer les interviews parce que.
Mais ça,
il challenge, oui, c'est un anglicisme, mais il défie pas assez ses interviewés.
Mais évidemment. C'est pas le but de l'émission, donc bon, on va
non,
pas
faire semblant. C'est pas l'émission, mais on peut quand même lui formuler des reproches.
Vous le savez, il nous reste 5 minutes, chers amis auditeurs. Nous avons toujours fini cette émission en parlant de littérature. Et vacances rime souvent avec lecture. Avez-vous déjà, chers amis chroniqueurs, des lectures à finir, à accomplir? Darjac.
Merci Rigaud. Oui, je suis en train de lire en ce moment une vaste et longue saga qui s'appelle Les Thibauds de Roger Martin Dugard. C'est une saga qui date de l'entre-deux-guerres, qui a été prix Nobel à l'époque de littérature. Et qui est une saga fort intéressante sur, comme on l'a raconte beaucoup, hein, sur la vie parisienne entre deux guerres, et qui s'intéresse particulièrement à la progression de l'athéisme et de la laïcité dans les milieux catholiques. Donc c'est une saga très intéressante, dont je vous recommande la lecture. C'est en 3 tomes, les 3 sont assez épais, hein, il y a quasiment 1000 pages à chaque fois, donc c'est vraiment très adapté pour les vacances. J'ai l'intention de lire également, sans ironie, le livre de Tugdual Denis, La cendre et le feu, Julien Denis, qu'on a reçu dans Restons Courtois sur Radio Courtoisie il y a 2 semaines et qui m'a plutôt donné envie de lire son livre. Je crois que vous l'avez lu, Stanislas, et que vous faites partie de ceux qui m'y encouragent plutôt. Voilà, et ensuite, vous savez, c'est l'avantage de rentrer dans les maisons de famille, c'est que je sais pas très bien encore ce que je vais lire, mais je piocherai dans les innombrables livres qu'il y a
notamment
chez moi.
Notamment dans le livre de cuisine de votre mère.
Notamment, parce que vous avez raison de le dire, je cuisine très très bien.
C'est exactement, c'est pour ça que j'ai ça, c'est sans ironie. Comme de Bréval.
J'ai commencé les Déracinés de Barrès, mais j'arrive vraiment pas à me plonger dedans.
Aïe, je comprends. Et vous savez quoi, je comprends. Je trouve que c'est, pour le coup, les Déracinés de Barrès, c'est vraiment pas du tout son meilleur, et à mon avis, il se disperse beaucoup trop entre ses personnages, ce qui empêche en fait de s'attacher à aucun. On les confond en plus parce qu'ils ont des noms qui sont assez similaires.
Ils sont durs à dire, ils sont durs à retenir.
C'est ça. Et à côté de ça, ils ont pas de personnalité particulièrement marquante, donc si vous voulez, écoutez, je vous laisse finir, mais je rebondirai après sur Barrès.
3 minutes.
Et j'ai lu La République épuisée de Jérôme Fehrenbach, qui est un livre. La République épuisée de Jérôme Fehrenbach, qui Jérôme Fehrenbach, c'est l'élite de l'élite qui a fait toutes les grandes écoles et qui était dans les plus grands cabinets à Matignon et qui aujourd'hui se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas très bien.
Donc, il est vraiment médiocre, c'est une personne qui a dû faire 5 ans à Matignon pour se rendre compte que le pays allait pas bien et une fois qu'il n'est plus en responsabilité, il commence à comprendre que le pays va mal.
Oui, Gabriel Attal version lire quoi.
Mais c'était sûrement quelqu'un de très scolaire qui a voulu bien faire
et qui a mal fait.
Et qui a pris un peu de recul un peu plus tard et qui se rend compte que tout ne va pas bien.
Et qui n'a pas eu le courage.
Pas votre cran.
Et qui n'a pas eu le courage d'intervenir quand il était aux manettes. Alexandre Galzin.
Mais écoutez,
qui était socialiste, j'imagine.
Non, il était au cabinet de Villepin.
Oui, il était socialiste.
Il était de droite à l'époque.
C'est intéressant de le dire.
Bah, écoutez, je suis en train de terminer. Là, il me reste une 40aine de pages, La colline inspirée de Barrès, donc, que je trouve justement bien meilleur que Les Déracinés. Et je vous conseillerais de commencer par ça. Ou alors de commencer par Le culte du moins, donc, qui est une trilogie qui est.
De vous, là.
Alors, ça pourrait, mais effectivement, non, mais qui est pour le coup une trilogie.
Alors, non, pas du tout.
Une trilogie brillante de Barrès, une sorte de néo-romantisme dans un style assez. Assez impressionnant, donc je vous le recommande vivement pour commencer Barrès ou La colline inspirée. Donc, et à côté de ça, je suis en train de lire Le monde confisqué d'Arnaud Aurin, donc qui raconte les deux types de capitalisme qui existent. Enfin, c'est plutôt un essai là-dessus assez intéressant. Et enfin, j'ai commencé Les démons de Dostoïevski. Et donc, j'ai 2 chantiers russes pour l'été, Les démons et Guerre et paix de Tolstoï. Voilà.
Moi, j'ai commencé à écrire, à lire pendant l'ouvrage d'un auteur à maison, je crois que vous avez reçu ici, de Pierre Valentin, Malaise au sein de la génération Z, qui ausculte un peu les travers.
Génération Z, vous connaissez cette anecdote?
Vous connaissez, oui. Non, mais qui analyse un peu les travers, tous les, remords et toutes les pathologies qui traversent cette génération qui a connu à la fois le confinement, dû au Covid il y a quelques années, et aussi qui connaît tous les remous liés à l'addiction aux écrans et qui connaît par exemple des difficultés de concentration. Et moi je vous conseille ce livre là qui est une radiographie parfaite de cette génération là.
Merci cher Edouard, merci Alexandre, merci Com, merci
une lecture Stanislas une.
Il nous reste 25 secondes et je dois remercier les auditeurs de Radio Courtoisie pour leur fidélité cette année. Veuillez encore nous excuser pour notre fou rire de tout à l'heure qui n'est que la preuve d'une bonne ambiance dans cette émission. Et si les débats peuvent être ardus comme nous en avons eu sur l'euthanasie, c'est notamment grâce à la liberté que nous avons chez Radio Courtoisie. Donc, chers amis auditeurs, je vous souhaite à tous de très belles vacances, un très bel été, une belle mobilisation pour les 2 semaines qui viennent contre l'euthanasie. Et je vous dis à très bientôt sur les antennes de cette belle radio. À bientôt.
Venez d'entendre Prolongation de Stanislas Rigaud, diffusée en direct sur Radio Courtoisie vendredi 3 juillet 2026 de 21h30 à 23h et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.